BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de faire de vous des meilleurs investisseurs ou des meilleures investisseuses. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web tous les jours de 10h à midi. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour de la nuit. Et bonjour à Hugo, un de nos auditeurs depuis New Delhi en Inde, qui nous a écrit cette nuit. Nous sommes mardi 23 avril 2024. Au programme de cette émission, nous allons zoomer sur l'union des marchés des capitaux. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, investisseurs? Est-ce qu'il faut le souhaiter? Décortiquage avec Jean-Louis Delloro de bfmbusiness.com. À 10h30, votre dose quotidienne d'économie avec Nicolas Dose. Le gouvernement avance à visage découvert sur l'assurance chômage et reprend la main. Allez vite pour faire des économies. Vers 10h30, côté bourse, Antoine Larry-Gaudrier, déjà connecté depuis Euronext. Et puis nos deux traders se préparent pour le match des traders pour décortiquer la séance du jour. Côté CAC 40, en portefeuille, on s'occupe des petites et moyennes valeurs. C'est mardi, Eric Lewin sera avec nous. Nous réfléchirons aux origines de l'expression « travailler au noir ». C'est Jean-Marc Daniel, notre économiste en chef, qui va venir nous promener dans l'histoire. On reparlera de Constantin, empereur des Romains. Nous allons également répondre au dilemme entre gestion passive et gestion active. Christian Fontaine du Revenu sera avec nous pour nous rappeler les origines de la méthode de lazy investing. On parlera, voilà, on fera ce match entre la gestion passive et la gestion active avec lui vers 11h30. Et puis on investira différemment aujourd'hui. Comment débuter une collection de design? Oui, de design. Qu'est-ce que c'est un classique du design? Quelle évolution du marché et quelle tendance? Pourquoi s'y intéresser? La Maison Christie's avec nous. Et puis au programme, il y a vous, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre en podcast. Vous continuez à réagir, à participer à cette antenne. Deux adresses, LinkedIn en message privé et puis par email direct@bfmbusiness.fr. C'est le moment de rejoindre Antoine à Euronext. Cher Antoine, c'est un petit peu le jour de la marmotte parce que le début de séance aujourd'hui ressemble terriblement à celui d'hier. Il y avait un petit rebond au début et puis la tendance se fragilise.
Mais oui, qui manque de jus encore ce CAC 41, plus 0,24%. Alors on reste en hausse, on reste un œil sur les 8100 points, mais ils paraissent quand même loin. On a réduit nettement la cadence depuis l'ouverture. On est à 8058 points sur l'indice vedette de la Bourse de Paris. Alors à noter quand même une très belle performance de l'Euronext Tech Leaders, l'indice riche en valeurs technologiques, qui est en avance d'1,33%. Donc il y a vraiment un bon climat sur la tech, en particulier dû au redressement du Nasdaq hier soir qui en avait bien besoin. On sort de plusieurs séances de suite vraiment négatives. Donc du coup, l'Euronext Tech Leaders, plus 1,3%. Puis à noter une tendance un petit peu plus décidée sur les autres places européennes. Le DAX à Francfort, plus 0,7. Et même score d'ailleurs pour l'Eurostoxx 50. Alors à noter qu'on croule sous les résultats d'entreprise, mais que ce sont plus les opinions d'analystes qui animent le marché ce matin. À noter Legrand qui gagne 1,5% à 96,38 €. Il y a Goldman Sachs qui a relevé son opinion sur la valeur à achat, ça anime la valeur. À noter ST Micro aussi, c'est Bernberg là qui relève son opinion aussi. Le titre gagne 1,2% à 37,15 € et ça participe à la bonne tendance sur les valeurs technologiques. Et à noter Interparfums, Bernberg est aussi très positif sur la valeur et elle gagne quasiment 3% à 50,70 €. La plus forte hausse du CAC, Eurofins Scientifique, plus 1,9% à 61,42 €. La plus forte hausse du SBF 120, c'est Orpea là qui rebondit très très largement, plus 5,08% à 12,96 €. En bon soutien du CAC 40, on a quand même le secteur du luxe qui se porte pas trop mal. Kering, dont on attend les chiffres d'activité après la clôture ce soir, gagne 1% à 349,75 €. À noter à la baisse, les secteurs liés aux matières premières. À noter qu'on a eu une forte baisse des cours ce matin sur les marchés chinois. Donc ArcelorMittal recule de 0,8% à 23,91 €. On a Solvay aussi qui recule de 2,3% à 30,83 €. Arkema, dans le même ordre d'idée, qui perd 1,4% à 96,50 €. Et puis à noter que les publications du jour sont plutôt vendues. Plastic Omnium, les chiffres étaient plutôt bons, mais le titre perd 1,7% à 11,78 €. Puis les investisseurs prennent leurs bénéfices sur Renault aussi, malgré là aussi de bons chiffres. Le titre perd 1% à 46,99 €. Le CAC plus 0,2, 8055 points. Du côté de l'euro face au dollar, on a bien forci après les PMI européens. On est à 1,0675. Lorraine.
Voilà, Antoine, on vous retrouve dans une heure. Évidemment, on est dans une semaine de déferlante attente de résultats, notamment on parlera de la tech américaine qui pourrait être un game changer cette semaine. On en reparle avec vous à 11h10. À tout à l'heure, Antoine. Pour l'heure, on fait le point sur les actualités patrimoniales et financières qui vous concernent.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Et notre rédacteur en chef aujourd'hui, c'est le rédacteur en chef adjoint de BFMBusiness.com. Bonjour cher Jean-Louis.
Bonjour Lorraine, bonjour
avec
à tous.
Nous, avec trois actualités matinales. D'abord, on va parler d'une union, celle des marchés de capitaux, qu'on ne peut plus appeler comme ça.
Non, c'est y est, on change de nom, hein, c'est plus l'union des marchés de capitaux, c'est l'union de l'épargne et de l'investissement. Alors c'est forcément des termes qui sont peut-être un peu plus explicites pour le grand
plus
public.
Plus concernant, on va le dire comme ça.
Voilà, et puis on est quand même à un mois et demi des élections européennes, donc c'est pas pour rien. Un rapport a été présenté jeudi dernier par l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta, au chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Et un autre rapport, hein, cette fois-ci commandé par l'État français, sous la houlette de l'ex-gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, va être remis jeudi prochain. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les marchés financiers sont très dispersés en Europe. Et par exemple, les fonds d'investissement ont tendance à être plus petits qu'aux États-Unis et à se concentrer uniquement sur leurs clients de leur pays d'origine. Alors ça signifie deux choses. Premièrement, des levées de fonds qui sont plus petites pour les entreprises européennes. Et donc, ça veut dire moins de levées de fonds, moins d'argent, moins de croissance, et des entreprises aussi qui sont potentiellement moins bien valorisées, notamment en bourse. Ça veut aussi dire plus de frais de gestion pour le petit épargnant, parce que plus vous êtes un gros acteur dans le monde financier, bah, plus vous pouvez faire des économies d'échelle. Et donc c'est ça que l'union des marchés, l'union de l'épargne doit changer. Et puis il y a aussi l'idée d'avoir peut-être un jour un livret A ou une assurance vie européenne. Mais avant d'en arriver là, hein, il va falloir se mettre d'accord sur les règles à suivre, et ça va pas être simple, c'est pas gagné. D'ailleurs, cette union de l'épargne et de l'investissement, c'est un serpent de mer. En fait, on en parle depuis plus de 10 ans. C'était déjà dans le programme de l'ancien président de la Commission, Jean-Claude Juncker, il y a 10 ans.
Eh ben, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, cette union de marché des capitaux, très sérieusement, qu'on appelle de nos voeux, qui peut faire du bien aussi à notre finance européenne et à nos marchés européens. Un mot de finance participative. Peut-être que vous avez cherché à lever des fonds sur une des multiples plateformes qui habitent notre écosystème français. Jean-Louis, vous avez un chiffre, celui du montant qu'on peut espérer lever par projet.
Oui, et ça nous vient d'Ulule, qui est l'une des, quand même, des plus grosses plateformes de crowdfunding, donc de financement participatif. Donc l'an dernier, ils ont réussi à financer 3661 projets pour un petit peu moins de 29 millions d'euros de fonds levés. Donc ça veut dire qu'on est à peu près à 7900 euros en moyenne par projet. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les projets, alors dit à impact, eh ben, ils ont tendance à lever plus de fonds en moyenne auprès des particuliers, autour de 8400 euros en moyenne. Mmh. Alors les projets à impact, bon, c'est pas toujours très bien défini, mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est par exemple si vous avez un projet avec des objectifs ESG, hein, environnementaux, sociaux et gouvernance pour une entreprise, ou si vous financez une association ou un projet sportif qui a un but environnemental ou social, ou encore des projets culturels. Donc voilà, si vous êtes dans cette optique-là, en tout cas, eh ben, vous arriverez sans doute à lever un peu plus de fonds qu'avec un projet plus classique.
Bon, 8000 euros, 8400 euros, ça reste quand même une somme assez modique pour financer un projet.
Oui, bah, c'est pas comme ça que vous allez lancer une start-up qui va concurrencer Google, mais ça reste une première étape. C'est juste derrière la love money, hein, par exemple, ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire l'argent que peuvent vous prêter vos proches et vos amis, et ça fait quand même 9-10 000 euros. Bah, voilà, ça peut vous permettre de vous lancer un mois ou deux avant d'avoir des besoins de trésorerie plus importants.
Google est rentré en bourse après avoir levé que 20 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Chiffre à mettre en perspective avec les boîtes qui rentrent en bourse maintenant après avoir levé combien ? Des centaines de milliers d'euros. Bon, allez, on va finir avec un programme, celui de la folle semaine qui s'annonce côté publication de résultats. 21 groupes de notre CAC 40 vont publier.
Oui, on a fait le calcul, hein, c'est 21 groupes sur 40. Alors, ça va se passer, c'est les comptes qui vont être publiés avant vendredi minuit. Donc, ça a commencé ce matin avec Renault. Et donc, cette semaine, il y aura notamment Kering, Hermès, Total Energy ou encore Airbus. Et puis ça, c'est côté français, mais en fait, de l'autre côté de l'Atlantique, bah, c'est pareil, c'est une très très grosse semaine. Et on a notamment Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla ou encore General Motors. Donc l'une des semaines les plus chargées de l'année en publication de résultats. résultats.
Jean-Louis, vous restez avec nous. L'ami du revenu, Christian Fontaine, va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Nous allons reparler de cette union de l'épargne et de l'investissement et de ce que ça signifie pour nous, investisseurs particuliers. Et puis, on va aussi réfléchir à comment rémunérer intelligemment nos liquidités. Ce sera dans Tout pour votre argent dans une dizaine de minutes. Mais avant ça, nous allons rejoindre nos traders pour faire le point sur la séance du jour.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Tout pour investir, le match des traders.
Ce matin, nous avons Gilles Santacreux et ses algos du site boursicoté.com. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et puis nous avons Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour cher Alexandre.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
On va commencer avec vous Alexandre. Après la correction de la semaine passée, selon vous, le rebond est-il durable ?
Alors déjà, on va faire un petit point étape. On s'était parlé il y a une quinzaine de jours pour le dernier point sur le CAC 40. Et quand on était dans une zone 8200, un peu au-delà, on disait voilà, que nous, notre scénario était toujours celui d'un repli, plutôt vers les 8000, même zone potentielle vers 7009. C'est un niveau qu'on a touché la semaine dernière. Dans ce contexte qui nous faisait, je dis pas un peu peur, mais qui justifiait selon nous d'être prudent, à savoir des taux qui ne cessaient de grimper. Et avec des discours côté américain notamment, par rapport à l'inflation, par rapport aux premières baisses de taux, qui étaient beaucoup moins accommodants que ce qu'on avait pu avoir il y a quelques mois. Donc, l'effet sur les indices, on l'a vu aux États-Unis et en Europe, a été réalisé, et on cherchait 5% de baisse sur le CAC, on a eu 4,5%, donc c'est pas très loin. À ce stade, on est, donc le 7009, on est actuellement un peu au-delà de 8000. Je dirais qu'un investisseur, je pense que ce creux peut être intéressant à, encore une fois, à travailler pour un investisseur. C'est-à-dire moins 5, moins 6, moins 7 sur un indice, c'est toujours bien. Dans une phase où moi je ne crains pas de grosses rechutes derrière, c'est toujours bien pour réallouer des fonds pour ceux qui ont du cash de côté et qui attendaient pour revenir sur des niveaux moins chers. Si toutefois, disposons d'un capital de 1000 euros par exemple, on se dit, bon, est-ce que je mets ces 1000 euros tout de suite sur le CAC à 8060 ou 8050? Est-ce que je les mets tout de suite? Moi je dirais qu'il faut plutôt splitter un peu, c'est-à-dire remettre par exemple 500 sur le niveau actuel, pour un horizon, voilà, quelques mois. Et en revanche, se dire, garder un peu de poudre sèche pour un niveau qui serait le niveau des 7740 points. Pourquoi je pense à ce niveau? Je ne dis pas qu'on va y aller, hein. Je dis simplement qu'il y a toujours un risque actuellement dans cet environnement où les taux restent assez tendus, où la Fed a repoussé les anticipations de première baisse de taux, où on est dans une saison de résultats, de plein pied dans cette saison de résultats. Il me semble que le risque d'aller rechercher 7009 et de basculer temporairement vers un 7740, c'est un niveau technique important qui correspond à une ancienne oblique, une résistance en fait, hein, qu'on avait cassée, qui était le niveau de résistance, où vous reliez le sommet de 2021, le sommet de 2023, bien vous avez cette zone de résistance qu'on a cassée, et le marché, parfois, peut faire ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire après être monté à 8200, presque 8003, eh bien il peut revenir chercher ce support, ancienne résistance qui devient support, s'appuyer dessus, puis repartir. Donc je dirais qu'il y a une probabilité assez faible à ce stade, mais qui n'est pas totalement non négligeable, que le marché, à un moment donné, puisse chercher ce niveau-là. Voilà, c'est ça, pour moi, mon seul risque encore présent, il est là. Si on va à 7700, c'est le niveau, je dirais, presque parfait, ou 7740, pour jouer le rebond. Donc je dirais 50% d'allocation sur le niveau actuel, mais garder une poire pour la soie, faire un peu de poudre sèche, si on allait un petit peu en dessous dans les jours qui viennent.
Gilles, vous entendez ce que nous dit Alexandre? Est-ce que vous gardez aussi votre poire pour la soif et un petit peu de poudre sèche?
Alors, aujourd'hui, j'observe un petit peu ce qui se passe, puisque Alexandre parlait de résistance oblique. On en a une qui prend donc son origine au début du mois d'avril, et on a une deuxième zone de points hauts qui a été inscrite lundi dernier. Et lorsque l'on projette justement ces deux points vers les cotations actuelles, on est en train de tester cette résistance oblique, qui était une résistance oblique baissière, et qui donc nous donne, je dirais, le guide de la tendance baissière sur laquelle on était. Ce qui veut dire que on est au terme de ce rebond-là qui a duré depuis la semaine dernière, au sommet d'une tendance qui reste baissière. Toutefois, on est en train de tester cette résistance et c'est la cassure qui fera l'objet d'une sortie de cette tendance baissière ou pas. On a une zone de points hauts, c'est la zone de lundi dernier qui se situe à 8126 points. Tant que l'on ne casse pas cette zone, eh bien, on pourra considérer que l'on est toujours dans une petite tendance de consolidation, même si Alexandre, comme l'a dit Alexandre, on est dans une phase de consolidation qui semble assez... qui n'est pas très puissante, hein, en fait. On est venu chercher des niveaux de consolidation que quasiment tout le monde attendait, mais on a du mal à sortir de cette zone. au niveau de mes algorithmes, on est sur une dynamique qui pourrait rester baissière. Toutefois, la conviction est moyenne. C'est-à-dire qu'au niveau de l'orientation, on n'a pas quelque chose de fort. Donc, il va falloir observer ce qui se passe au niveau, des niveaux horizontaux. Donc, j'en ai deux, là, que je surveille. C'est 8092 points pour aujourd'hui. On s'en est approché ce matin. Et en cas de cassure, on validerait la sortie, justement, de cette tendance baissière par rupture de la zone des 8145 points. On a énormément de chiffres microéconomiques en ce moment. Les chiffres macro de la semaine interviendront en fin de semaine. On aura les chiffres du PIB, on aura des chiffres de l'inflation du côté des États-Unis. C'est un petit peu ce qui va driver le marché. Si on revenait sous la zone des 8024 points, eh bien on confirmerait que la zone de points hauts que nous avons actuellement, qui est une zone temporaire, on ne sait pas comment ça va évoluer, eh bien serait en fait une zone de points hauts d'une tendance qui reste baissière et on pourrait rapidement revenir vers une zone de support des 7975 puis 7915 points. Donc pour l'instant, on attend de voir si justement ce rebond peut avoir un prolongement ou s'il s'agit que d'un rebond technique au sein d'une tendance qui, elle, reste baissière.
Voilà, les différents niveaux techniques à surveiller. Merci beaucoup, messieurs, pour votre analyse. Alexandre Baradez de chez IG et Gilles Santacreux de Boursicoté.com. On vous retrouvera la semaine prochaine, on fera le bilan au milieu des résultats, enfin, partie des résultats qui seront derrière nous. À suivre, on débat de l'actualité qui vous concerne en tant qu'investisseur.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
C'est l'équipe du mardi qui est avec nous. Jean-Louis Deloro de BFMBusiness.com est toujours là. Rebonjour Jean-Louis.
Rebonjour Lorraine.
Et Christian Fontaine nous a fait la grâce de revenir de vacances et de rejoindre l'équipe. Bonjour Christian. Christian Fontaine, directeur délégué du Revenu, avec nous pour débattre de plusieurs sujets. Débattre, je ne sais pas, parce que débattre, vous le savez, étymologiquement, ça veut dire quoi ? Discuter pour ne pas se battre. Mais nous allons décrire la semaine de déferlante qui nous attend avec tous ces résultats d'entreprises, Kering, Renault, Tesla, GM, Mattel, entre autres. Qu'est-ce qu'on attend ? Quelle est votre anticipation, Christian ? Est-ce que ça va continuer de monter ?
Non, mais il y a un vrai, vous posez une vraie question, il y a un vrai sujet de débat. Est-ce que donc le retournement des marchés qu'on a observé la semaine dernière, on rappelle quand même, le CAC 40 baisse quasiment de 1%, baisse de 3% donc lors du Standard & Poor's, baisse de quelques 6% du Nasdaq, baisse de 7% donc lors des Seven Magnifiques. Donc la vraie question est de savoir, est-ce que la semaine dernière ça marque un retournement donc des bourses qui va s'accélérer un petit peu dans la perspective donc du sell in May and go away, donc pour revenir en octobre ou novembre, ou alors est-ce que c'était simplement un coup de froid, donc lors des prises de bénéfices, et puis on va repartir sur des tendances plus haussières. Alors, ce qui est frappant, c'est que la semaine dernière, vous parliez des résultats, donc il y a deux résultats excessivement marquants, c'est très positif, LVMH et L'Oréal, LVMH de mémoire quasiment plus 3% donc lors de hausse du cours le jour de l'annonce, donc lors du chiffre d'affaires trimestriel. Concernant L'Oréal, quasiment 5% de hausse de mémoire encore vendredi dernier. Bon. Mais on a bien vu que malgré, là on parle de deux poids lourds du CAC 40, ça n'a pas empêché le CAC 40 de reculer sur la semaine. En fait, on voit bien que le driver des marchés, c'est les taux, c'est toujours les taux. À partir du moment où la perspective de baisse des taux, aussi bien donc de ce côté-ci que de l'autre côté de l'Atlantique, s'éloigne un tout petit peu, eh ben les marchés commencent à hésiter. Donc on va voir un tout petit peu ce qui va se passer. C'est vrai que vous les avez cités tout à l'heure, Jean-Louis, il y a d'avoir Air Liquide, Dassault Systèmes, les ténors donc du marché parisien vont annoncer leur trimestriel. On va voir comment ça va se passer. Mais attention, l'élément clé qui risque de perdurer, ça va être cet élément taux. Et puis, il y a toujours cette saisonnalité. On va rentrer dans la période de versement des dividendes. À Paris, ça signifie que le dividende moyen sur le CAC 40 doit tourner autour de 3%, comme mécaniquement, à partir du moment où on détache un dividende, et mécaniquement, ça entraîne une baisse donc du cours de bourse et donc une baisse du CAC. Donc, quel va être l'impact ? Au revenu, on est plutôt confiant dans une perspective de moyen long terme, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, on était quand même sur des perspectives de hausse extraordinaires. En trois mois, on avait pris 7,5%. C'était quand même du rarement vu.
On n'a pas parlé de la baisse d'Nvidia, qui nous a occupé quand même tous les jours pendant de longues semaines, qui fait quand même moins 14% sur un mois. Il y a aussi les PMI, les indices PMI flash qui seront scrutés de près. Jean-Louis, pour finir sur ce sujet.
Eh ben, moi, je pense qu'il y aura plusieurs éléments à regarder. Déjà, c'est toujours quand même le ralentissement économique, notamment en France. Alors après, on parle de multinationales et en plus des meilleures multinationales, quand on parle du CAC 40, donc qui font essentiellement leur chiffre d'affaires à l'étranger. Mais quand même, on va voir, est-ce que le ralentissement économique en Europe, parce que c'est moins le cas aux États-Unis, bah, ça a un impact. On va voir aussi si les prémices qu'on a cru voir d'une reprise en Chine se confirment. Quand même, là, on a une première tendance avec LVMH et L'Oréal, donc c'est vrai que ça a l'air de repartir un petit peu. Et puis, plus globalement, on a quand même été surpris pour le dernier trimestre 2023 que tout le monde résistait quand même globalement très bien avec des bénéfices records. Là, on va voir si c'est encore le cas ou si ça va être plus par secteur. Est-ce qu'il y a des secteurs qui vont plus souffrir que d'autres? Et ça, c'est pareil, ça va être des éléments importants pour les tendances à venir sur les prochaines semaines et prochains mois.
Bon, tendance à surveiller aussi avec le rapport Christian Noyer qui devrait rendre ses conclusions sur l'union des marchés de capitaux jeudi prochain. Jean-Louis nous a rappelé que cette union des marchés de capitaux allait maintenant s'appeler l'union de l'épargne et de l'investissement. C'est un gros enjeu pour la place de Paris, pour la place boursière de Paris. On s'inscrit dans, évidemment, les années qui suivent le Brexit. Jean-Louis, un mot de plus sur cette union. Et Christian, vous allez nous donner votre réaction.
Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, on ne l'avait pas forcément vu à ce point-là. Depuis le Brexit, la place financière de Paris s'est considérablement renforcée. On pouvait être sceptique au début, mais finalement, c'est vrai qu'il y a un écosystème financier qui s'est quand même bien mis en place, avec beaucoup, notamment, de banques, de succursales, de banques américaines ou britanniques qui sont venues s'installer à Paris plutôt qu'à Francfort. Donc, c'est vrai qu'on s'est renforcé. Donc, on se dirait qu'une union des marchés de capitaux, une union de l'épargne et de l'investissement, ça profiterait quand même forcément plus à la place de Paris qu'à d'autres places plus petites, justement, parce qu'on concentrera de plus gros acteurs. Donc à voir. Mais après, ça va être une bataille de réglementation aussi. Et puis ça veut dire que les régulateurs nationaux, ils vont devoir lâcher un peu de pouvoir, même beaucoup de pouvoir, auprès du gendarme financier européen, l'ESMA.
Un nouvel acronyme, ESMA.
ESMA. C'est toujours pareil. Ils n'ont pas nécessairement envie. Et puis, il y a un jeu de bataille qui va être compliqué entre 27 pays, quand même. Ça s'annonce quand même compliqué.
Christian.
Non, les enjeux sont importants, mais c'est vrai qu'est-ce qu'on peut constater, en fait, c'est que quasiment plus de 22 années après l'entrée en circulation des premiers euros, c'est que l'Europe de l'épargne n'existe pas. Elle n'existe pas au niveau des produits financiers, elle n'existe pas au niveau de la fiscalité, elle n'existe pas en matière de protection des épargnants. Et donc, effectivement, alors le seul domaine peu ou prou où elle existe, c'est en matière des asset managers. C'est vrai qu'aujourd'hui, les boutiques franco-françaises type Carmignac vendent grâce au passeport européen dans l'ensemble, au niveau de l'ensemble de l'Europe. Attention tout de même à se diriger en matière de protection de l'épargne. La France paie plutôt sans doute souvent mieux que nos voisins. Donc attention à ce qu'on n'aille pas vers le moins 10 ans. Et puis effectivement, au niveau purement des marchés de capitaux, le vrai enjeu, c'est ces fameux fonds de pension à la française. Alors, à chaque fois qu'on parle donc de sujet, j'ai un peu les cheveux qui hérissent sur la tête parce que nous, les fonds de pension à la française, on est toujours qu'il n'y existe pas. Je suis désolé, mais l'assurance vie, c'est des fonds de pension à la française. Le plan d'épargne retraite, c'est des fonds de pension à la française.
Et il y a le fonds de réserve des retraites qu'on oublie toujours.
Voilà. Alors tout ça, effectivement, donc le plan d'épargne retraite, ça pèse peut-être pas des milliards d'euros, mais il y a quand même des enveloppes fiscales à fiscalité privilégiée destinées peu ou prou à la retraite, ou en tout cas utilisées comme telles, même si ça ne correspond pas forcément à la définition anglo-saxonne des fonds de pension. Voilà. Donc, il y a des vrais enjeux de la naissance d'une vraie, Europe de l'épargne. Mais c'est vrai qu'on se heurte à des habitudes locales. En France, on a le livret A, on a l'assurance vie en euros. En Allemagne, il y a d'autres habitudes. Il y a des pays qui ont des réflexes, très différents vis-à-vis des marchés financiers. On pense bien sûr à l'Angleterre, même si elle n'est pas dans la zone euro. Mais il y a des habitudes. C'est un marché qui ne s'est pas unifié autant qu'on aurait pu l'imaginer il y a une vingtaine d'années.
Il n'y a pas une culture financière et de l'épargne européenne, pas encore. C'est un chantier. On va finir sur un sujet liquidité avec vous, Christian, puisque nous allons réfléchir à comment rémunérer, si possible intelligemment, ces liquidités. Vous nous parlez du compte courant d'associés.
Et oui, pourquoi ? Parce que, donc, a priori, les taux de la BCE vont baisser en juin. Et très concrètement, pour le commun des mortels, ça signifie que dans la foulée, les SICAV monétaires vont rapporter moins, les livrets bancaires vont rapporter moins, les comptes à terme vont rapporter moins. Donc, c'est le moment de s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas des décisions à prendre en matière pour mieux rémunérer vos liquidités. Il y a une solution qu'on parle rarement, qui est le compte courant d'associés. Alors, c'est vrai qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde, puisqu'il faut avoir dans son entourage être associé ou actionnaire d'une structure, mais ça peut être une SARL ou une société anonyme. Et c'est vrai que ces structures-là sont parfois en quête, en recherche, donc alors d'argent frais, et un associé, un actionnaire, même très très minoritaire, peut très bien prêter donc alors de l'argent à la structure, et en échange, donc alors la structure rémunère donc ce compte courant à un taux qui peut être très élevé. En fait, il n'y a pas de plafond. Il y a des plafonds sur le plan fiscal de déductibilité au niveau de l'entreprise, mais sinon, indépendamment de ça, ça peut être, ces comptes courants peuvent être rémunérés à 4, 5, 6%. Et pour, bien sûr, le prêteur, cela représente une rémunération de ses liquidités qui sont supérieures au taux qu'on peut avoir avec le livret A ou le SICA monétaire ou les autres solutions dont je parlais tout à l'heure. Alors, attention à tout. D'abord, c'est les taux et l'argent encaissé par le prêteur est bien sûr soumis à la flat tax de 30%. Absolument. Et l'autre bémol, c'est que c'est un prêt à une entreprise, donc il n'y a pas de garantie qu'on peut peu ou prou l'avoir avec une SICA monétaire, avec un livret bancaire. Donc si jamais l'entreprise va au tapis, vous risquez de ne pas retrouver vos petits. Donc il faut bien sûr bien connaître la structure et les dirigeants et avoir confiance de la solidité de la société.
Surtout que vous n'êtes pas un créancier privilégié. Hein,
voilà, on n'est surtout pas un créancier privilégié.
Vous n'êtes pas dans les premiers qui sont remboursés en cas de liquidation.
Même dans les tout à fait les derniers. donc c'est un point important à préciser. Voilà, c'est une solution, les comptes courants d'associés. Il y a beaucoup d'indépendants, de commerçants, de professions libérales, de patrons, de petites structures qui nous écoutent. Et c'est une façon à la fois, je dirais, de financer la structure en cas de projet de développement sans pour autant, je dirais, devoir faire une augmentation de capital, sans pour autant recourir au crédit bancaire, par exemple, ou au crowdfunding dont parlait tout à l'heure Jean-Louis. Et puis, pour l'associé, c'est aussi une façon intelligente de rémunérer ses liquidités dans un contexte de baisse de la rémunération à terme des produits monétaires dans la foulée de la baisse des taux de la BCE.
Voilà, baisse que Christian anticipe. Espère. Prévois.
Je ne sais pas si je ne prévois pas. En tout cas, on en parle.
Ce sera mauvais pour
l'épargnant,
mais bon pour l'emprunteur. Donc, voilà. C'est toujours pareil, deux versants.
Voilà ce que nous pouvions dire en ce mardi matin sur les actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur, épargnant, emprunteur de l'actualité. Voilà. Vous restez avec nous. On va marquer une petite publicité. Nicolas Dose arrive pour sa dose d'économie. Nous allons parler du gouvernement qui avance enfin à visage découvert sur l'assurance chômage et qui, voilà, reprend le dossier en main, aller vite et faire des économies, le chantier est à démarrer. Juste après la pub, après on parlera aussi de votre culture financière. Nous allons parler des origines de l'expression « travailler au noir ». Et puis Christian, on vous retrouve dans une grosse heure, puisqu'avec vous, on parlera de culture financière une fois encore. On fera la différence entre les États-Unis et chez nous en France, en parlant de gestion passive, de « lazy investing ». Gestion passive versus gestion active, le match à 11h30 avec Christian et l'équipe du Revenu. Jean-Louis, on lit quoi sur bfmbusiness.com aujourd'hui ?
Eh ben, on revient notamment sur les taux immobiliers qui effectivement ont baissé, mais est-ce que le marché immobilier est vraiment relancé ? C'est pas si sûr, parce que pour l'instant c'est beaucoup de choses à l'état de projet. Voilà, les gens ont des projets, recommencent à regarder combien ils peuvent emprunter, mais pas nécessairement ils vont pas nécessairement tout de suite acheter. Ça va un peu mieux, mais c'est pas encore la fin de la crise.
Voilà, on notera le regain d'activité sur les visites d'appartements dans notre séquence immobilier tout à l'heure avec Marie-Cœur de Roy vers 11h15. Christian, la une du revenu cette semaine, enfin ce mois-ci plutôt.
Alors la une du revenu, c'est réussir ses placements immobiliers. Voilà.
Alignement parfait.
L'alignement parfait entre les placements d'un côté, la culture, l'ADN historique du revenu, et puis l'immobilier placement préféré des Français. Et puis aussi, vous voyez en haut, vous voyez une belle coccinelle investie dans une voiture de collection, une nouvelle rubrique qui s'est consacrée aux véhicules anciens. Et alors, c'est pas les véhicules anciens qui s'échangent à des millions d'euros. Non, ce sont ceux que vous pouvez dénicher près de chez vous à 5, 10, 15, 20 000 euros avec une perspective de gain à 5 ans de 20, 30%. Voilà, une nouvelle rubrique avec aussi un dossier sur l'épargne salariale qui est effectivement dans l'actualité puisque vous avez jusqu'à fin mai, si vous êtes faites partie de ces heureux salariés qui vont toucher une prime d'intéressement et ou de participation, ben le revenu vous explique où la placer pour gagner encore davantage.
Pas tout dans votre deux chevaux. Hein. Allez, à tout de suite avec Nicolas Dose qui trépigne avant la pub. À tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Nicolas nous met des points sur les i, enfin plutôt. Vous nous dites que le ministère du Travail a mis des points sur les i hier, puisqu'il a précisé des éléments sur l'assurance chômage. Racontez-nous, Nicolas.
Bon, en fait, le gouvernement arrête de cacher son jeu. Mmh. Donc, c'est bien l'État qui prend en main le truc. Décret, le 1er juillet, décret de carence qui court sur 3 ans pour réformer l'assurance chômage. Donc c'est plutôt que prévu, c'est un décret, ça va sortir directement des mains de Catherine Vautrin. Donc il y a toujours les fameux 3 paramètres sur lesquels on peut jouer. La durée d'indemnisation, c'était le paramètre mis en avant jusqu'ici par Gabriel Attal. On allait encore réduire cette durée pour peut-être la descendre à la durée allemande, 12 mois. Mais c'est plus du tout le sujet dont il parle depuis jeudi dernier, où il met plutôt l'accent sur le fait de durcir les conditions d'accès. Les conditions d'accès, il faut avoir travaillé 6 mois pendant les 24 derniers mois. Ça voudrait dire qu'on exigerait davantage de mois de travail pour accéder à l'assurance chômage. Le troisième levier, c'est la dégressivité des indemnités. Là, il en est pas question. En tout cas, à retenir, on passe à l'acte en juillet plutôt que prévu, alors qu'on pensait que c'était à l'automne. Et c'est bien le gouvernement qui va prendre ça en main de A à Z.
Agir sur les conditions d'accès, sur les conditions d'ouverture de ces droits, est-ce que ça vous semble la bonne idée, Nicolas?
Alors c'est là où c'est très frappant, parce que depuis le début, et Gabriel Attal, encore jeudi sur BFM TV, nous dit, il me pose la question, pourquoi fait-on cette réforme? Alors de manière un petit peu provocatrice, je lui dis, pour faire des économies. Mmh. Alors bien sûr, je lui dis, je vous dis ça parce que vous allez me dire le contraire. Non, pour créer de l'emploi, pour accélérer le retour à l'emploi, pour l'objectif plein emploi 2027, nada. Si vous décidez que vous durcissez les conditions d'accès, vous retardez la possibilité d'entrer dans l'assurance chômage pour faire des économies. Mmh. Et là, vous avez un effet économie rapide. À l'inverse, pour accélérer le retour à l'emploi, toutes les études empiriques qui ont été menées, parce qu'il y a plein de pays qui ont réformé l'assurance chômage, on sait que le paramètre le plus efficace est justement celui qui semblerait abandonné, qui est de réduire la durée d'indemnisation. Jusqu'ici, c'était cette direction qu'on avait prise, mais il semblerait que les choses évoluent.
Bon, est-ce que on peut dire que c'est la bonne solution? Voilà, chacun peut juger. Il y a un autre dossier qui, pour le coup, est plutôt en mode échec, c'est celui de l'emploi des seniors, un peu contexte, le gouvernement hier a pris acte de l'échec des négociations avec les partenaires sociaux. Expliquez-nous ce que ça signifie.
Mais ça signifie que là, l'État reprend la main. Alors, il ne va pas dire le paritarisme est mort, mais ça revient à peu près au même. On sonne le glas du paritarisme dans la gestion de l'assurance chômage. Il y a cette volonté politique déjà bien installée et elle est en train de s'installer vraiment. Donc, on constate l'échec des négociations sur le pacte au travail et l'emploi des seniors. Moralité, l'échec de ces négociations actées par le gouvernement signifie que ça rend caduque la précédente convention d'assurance chômage UNEDIC du mois de novembre. Donc, voilà, l'État reprend la main. Alors, la ministre de tutelle s'en défend, elle dit qu'elle va les consulter d'ici le décret du mois de juillet, les consulter, les partenaires sociaux. Ouais. Bon, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, le 1er 2017, la volonté de fissurer le paritarisme crève les yeux. Voilà, ça n'a jamais été explicitement assumé, dit, ni vraiment assumé. Bon, le communiqué d'hier, finalement, met fin à une forme d'hypocrisie. Ça fait des années que l'État joue les troisième hommes dans ces négociations sociales censées être paritaires entre syndicats de salariés et syndicats de patrons. Et puis, depuis toujours, l'État, de facto, ou implicitement apporte sa garantie à la dette de l'UNEDIC. Bon, maintenant, l'État va écrire lui-même les conventions UNEDIC au travers d'un décret.
Voilà, on sort du bois, finalement.
Oui, je trouve que là, voilà, on met un peu les points sur les i, justement.
L'assurance chômage est nationalisée. L'édito de Nicolas Dose à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business, et puis aussi sur YouTube, sur la page, sur la chaîne BFM Business, si vous voulez vous aussi participer à cette discussion, réagir en zone de commentaires. Sentez-vous libre, participez à cette réflexion économique. Vous restez avec nous, on s'occupe de votre portefeuille. Nous allons parler des petites et moyennes valeurs qui occupent l'esprit d'Eric Lewin ce matin.
Tout pour investir, les marchés et vous.
Bonjour cher Eric.
Bonjour ma chère Lorraine.
Vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. On va faire le point sur nos small et mid cap françaises, mon cher Eric. D'abord, on va faire un point sur les indices et puis on s'arrêtera sur une ou deux opérations qui ont retenu votre attention cette semaine. On va parler d'Ores Technologies et puis de Derichebourg sous pression. Mais d'abord, le point sur les indices.
Eh bien écoutez, non, sur la semaine, les indices se tiennent plutôt bien. CAC Small et CAC 40 progressent de 1,4%. Il y a quand même 6 points d'écart entre le CAC 40 et le CAC Small depuis le début de l'année, plus 6,6 pour le CAC et plus 0,3% pour le CAC Small. À noter deux événements quand même ces derniers jours. D'abord ce matin, la suspension de cotation de Voyageurs du Monde. Vous savez, Voyageurs du Monde, c'est les voyages sur mesure. Mmh. Est-ce que c'est le prélude à une opération financière? Est-ce qu'il y a autre chose? Bref, on n'en sait pas plus. La deuxième chose, c'est moins glorieux, c'est une procédure de sauvegarde pour une société qui s'appelle AST Group, qui est spécialisée dans les maisons individuelles. Vous savez qu'en ce moment, avec la crise immobilière, ça ne va pas fort. Procédure de sauvegarde pour garantir sa continuité opérationnelle. L'action vaut 37 centimes, elle perd 38% depuis le début de l'année, et elle ne vaut plus que 5 millions d'euros, ce qui m'amène à vous dire que, à part certains dossiers dans les foncières comme Immobilière d'Assaut, qui sont des dossiers de très très grande qualité, il faut faire très attention dans le monde immobilier actuellement, parce que non seulement c'est compliqué en termes de vente, mais également les taux qui ne baissent toujours pas, c'est également compliqué. Donc be careful, comme on dit en anglais, sur l'ensemble des foncières.
Thank you, cher Eric. On va parler pas du tout d'immobilier, nous allons parler de terminaux de points de vente avec cette entreprise Aures, que j'appelle, pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, A-U-R-E-S, Aures Technologies.
Bah écoutez, c'est une société qui a connu un plus haut historique au-dessus des 33 euros, et puis le titre s'est totalement effondré. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il y a une OPA de la part d'Advantec à 6,31 €, ça fait une petite prime de 63,1%, ce qui est énorme. Alors que se passe-t-il sur ce dossier? La grande problématique de ce dossier, c'est un fabricant, vous l'aviez précisé, de terminaux de points de vente. Ils avaient finalement un news flow assez médiocre. Sur 2023, vente était en repli de 15% à 86 millions d'euros. Il y avait une situation de trésorerie ultra tendue, au point que le titre s'était effondré, avec certains investisseurs qui pensaient que c'en était fini du groupe. Je crois qu'on avait une dette nette au-dessus des 12 millions d'euros, un groupe qui était largement déficitaire, et donc le président du groupe, Patrick Catala, devait absolument trouver un acquéreur afin de mettre un terme à sa mission. C'est ce qui est fait donc avec Advantec, et donc finalement l'opération à 6,31 €, prime de 63%, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Advantec, après cette opération, détiendra 36% du capital d'Aures, puisque le président de d'Aures va apporter ses titres. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à avoir plus de 90% pour sortir la boîte de la cote? C'est pas sûr, mais en tout cas ça fait du bien à beaucoup d'actionnaires qui ont cru en ce dossier. Et je le rappelle, le titre par rapport à son plus bas avait été divisé par 10, puisque je crois que le plus haut historique c'est autour de 33-34 €. Donc encore une opération financière sur la place de Paris, ça fait du bien, même si à côté il y a très peu d'IPO, même si on a eu Planisware la semaine dernière. Oui. Enfin, Planisware, c'était un espèce de placement privé réservé en 36 heures où finalement les investisseurs individuels n'y étaient pas.
Voilà, Aures Technologies vers une OPA à 6,31 € par action, avec cette prime que vous nous avez décrite de 63%. Eric, on va finir en parlant du secteur du recyclage et de la propreté, avec De Richbourg.
Ben écoutez, oui, De Richbourg, alors on est dans le recyclage et la propreté. Alors la problématique, c'est que la semaine dernière, le groupe a émis un profit warning. Mmh. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont eu, comme de grand nombre de sociétés françaises, une cyberattaque fin de l'année dernière, et donc elle a fait perdre entre 15 à 20 millions d'euros en termes d'EBITDA pour le groupe. Et donc le groupe a annoncé que il ferait moins 19 à moins 20% pour son EBITDA sur le premier semestre. Ouais. Sur l'ensemble de l'année, on attendait 350, on aura entre 300 et 310. Je vais pas vous abreuver de chiffres, mais disons que les investisseurs ont été déçus. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, l'action a perdu 10% dans la semaine, elle perd plus de 20% depuis le début de l'année. Maintenant, on est quand même avec De Richbourg sur un groupe qui fait 3,6 milliards de chiffre d'affaires. Je le répète, les prestations de recyclage, c'est à peu près 95% du chiffre d'affaires, avec notamment collecte et recyclage de métaux ferreux. Je vais pas vous faire tout l'inventaire, mais moi je trouve qu'on est dans ce qu'on appelle la value maintenant, c'est-à-dire que c'est une valeur qui est revenue à des niveaux plus qu'intéressant. Elle est quasiment à son plus bas niveau depuis 3 ans. Quand on regarde les ratios, le PER est de 6, la valeur d'entreprise rapportée à l'EBITDA est de 4. Je me demande si autour de 4 €, ce n'est quand même pas un cours d'achat, dans la mesure où j'ai le sentiment que toutes les mauvaises nouvelles sont intégrés dans les cours boursiers. On sait que l'exercice actuel, qui est un exercice à cheval, ne sera pas des plus fameux. Donc, il faut regarder de très très près de Richebourg.
Voilà, de Richebourg que vous gardez dans votre radar. Eric, peut-être vous pouvez répondre des beautés à Tony, qui est un de nos auditeurs réguliers qu'on salue, qui vous écoute attentivement le mardi. Il y a quelques semaines, vous aviez parlé de freelance.com. Est-ce que vous avez un mot sur freelance aujourd'hui pour nos auditeurs ?
Écoutez, la problématique de freelance, donc en fait c'est une plateforme qui relie les entreprises et les particuliers qui sont intéressés par des missions de freelancing. Alors sur 2023, bon, le chiffre d'affaires a progressé de 4% en organique à 857 millions d'euros. Ce qu'on peut dire, c'est que les résultats qui sont sortis, c'est pas mal. On a un EBITDA en hausse de 9%, résultat d'exploitation en hausse de 5%. Maintenant, il y a une légère baisse du bénéfice net, et la problématique, c'est qu'on a l'impression que 2024 risque d'être une année de transition. Alors il y a peut-être une croissance organique légèrement positive, mais c'est une année de transition. Pourquoi ? Parce que freelance.com est très 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 lié au cycle économique, et vous savez que la croissance économique ne sera pas des plus importantes cette année. Donc moi j'ai envie de dire qu'en termes de ratio, c'est pas très cher ce dossier. Actuellement il perd 8% parce que on n'a pas été tellement satisfait de la publication, mais je trouve que c'est un dossier quand même, s'il continue un petit peu à baisser, là on voit autour de 3,50, je pense qu'autour de 3,20, 3,30, on peut ramasser, mais attention, c'est quand même très très lié au cycle économique.
Merci beaucoup Eric d'avoir répondu au pied levé à Tony sur Freelance. On a parlé de l'OPA sur Aurès Technologies, on a parlé de Richebourg sous pression, et oui, j'ai un auditeur qui réagit, qui nous dit: le montant de la cyberattaque est-il juste? Oui, cette cyberattaque qui concerne de Richebourg lui a fait perdre entre 15 et 20 millions d'euros. Oui, c'est un vrai chiffre. Par ailleurs, je vous précise que plus de la moitié des entreprises sont exposées à des cyberattaques. C'est des chiffres du gouvernement que vous pouvez retrouver dans le panorama de l'ANSSI. Et près d'un tiers de ces cyberattaques sont des fuites de données. Donc vous voyez, ça a quand même des vraies conséquences. Merci beaucoup, Eric Lévy, des publications Agora, qu'on retrouve tous les mardis dans Tout pour Investir, très régulièrement dans BFM Bourse et sur l'ensemble de notre antenne. Merci, cher Eric. Séquence à retrouver en podcast et en replay si vous l'avez attrapé en cours de route. Il est temps de s'occuper de votre culture financière. Nous allons travailler au noir avec Jean-Marc Daniel. À tout de suite.
Tout pour Investir, le coach.
Nous allons travailler au noir avec Jean-Marc Daniel, qui nous emmène chaque mardi aux origines d'une expression du monde financier ou économique. Vous êtes venu sans votre petite bougie, cher Jean-Marc.
Oui, absolument, parce que je savais que là, en ce moment, nous allons travailler au jour et non pas au noir. Parce que le noir en question, c'est le noir de la nuit. Et d'ailleurs, quand on regarde comment ça se dit en anglais, travailler au noir, ça se dit... Donc, le noir est assimilé à la lune, c'est « to the moonlight » or « in the moonlight » ou encore « under the table », c'est-à-dire sous la table, on travaille sous la table. La bougie que nous avons sous les yeux, effectivement, éclairait les gens qui travaillaient la nuit, et ce travail de nuit a été interdit. Alors, il a été interdit quand ? Il a été interdit, en fait, dès le 4e siècle, par l'empereur Constantin. Donc, Constantin, c'est un empereur romain de référence.
Le premier empereur.
Le premier qui a porté ce nom, c'est le premier aussi à avoir introduit le christianisme. Et une des obsessions des Romains, d'ailleurs, qu'on trouvait déjà à l'époque de Vespasien, qui est l'empereur romain dont nous avons parlé la semaine dernière. Donc Vespasien avait interdit le progrès technique pour être sûr de conserver l'emploi. Et Constantin, lui, il va faire une politique de partage du travail pour être sûr de maintenir l'emploi.
C'est les 35 heures avant les 35 heures.
C'est les 35 heures avant les 35 heures. C'est l'idée qu'on va interdire un certain nombre de périodes pendant lesquelles on ne pourra pas travailler, et afin de préserver l'emploi global. Alors on interdit deux périodes. On interdit d'abord le dimanche. Donc c'est un édit du 3 juillet 321 qui fait que le dimanche doit être consacré à des activités religieuses. Et le dimanche est consacré à un culte. Alors dans l'Empire romain, c'est le culte chrétien, c'est aussi le culte du soleil, puisque en anglais, je rappelle que le dimanche, c'est le jour du soleil.
Sunday.
Sunday. Et puis, on se met à interdire le travail de nuit. Ça va être confirmé en 364 à la Odyssée par un certain nombre d'autorités religieuses. Et on voit bien qu'il y a un double enjeu derrière tout ça. Il y a le fait que travailler la nuit, ça prend du travail, ça génère effectivement de l'activité et ça prive un certain nombre de gens, dans ce raisonnement qui est un raisonnement purement malthusien, ça prive de travail un certain nombre de personnes qui peuvent être dangereuses sur le plan social. Et puis, travailler la nuit, c'est consommer des bougies, la bougie que nous voyions auparavant, et produire des bougies, ça coûte cher, et dans l'Empire romain finissant, ça s'assimile aussi à avoir des lampes à huile, et les lampes à huile sont alimentées avec des sous-produits de l'huile d'olive, et là aussi, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas utiliser l'huile d'olive à des choses plus utiles pour la vie quotidienne que de la brûler dans des lampes?
Par exemple, la consommer. Vous nous dites une bougie, ça coûtait cher. Parlez-nous de la bougie en l'an 360.
Ben, en l'an 360, la bougie, c'est fait avec de la cire. La bougie va évoluer, d'ailleurs, dans le temps. On va améliorer considérablement le produit de la bougie. Une des grandes défauts de la bougie, du reproche que l'on fait à la bougie, c'est de dégager énormément de fumée. Et donc, l'huile aussi, mais la bougie plus particulièrement. Et la bougie va véritablement faire un progrès à partir du XVIIIe siècle, quand on va se mettre à brûler dans la bougie des graisses animales, notamment des graisses issues aussi des baleines. Je rappelle que l'utilisation de la baleine comme matière première de l'activité humaine, ça a été essentiellement au début l'utilisation de ces graisses, et ces graisses ont été utilisées pour faire briquer des bougies. Aujourd'hui, la bougie a fait place à l'électricité, et on continue néanmoins à tuer des baleines pour d'autres raisons, on continue à utiliser les baleines pour d'autres activités.
Notamment dans la cosmétique.
Notamment dans le cosmétique. Et alors, l'image qui est derrière vous, c'est des billets, ce sont ces billets under the table qui passent de la main à la main, et donc ce sont les billets qui vont rémunérer un travail qui est un travail illégal et interdit. C'est pas des billets qui sont masqués par la nuit, ce sont des billets qui rémunèrent, encore une fois, une activité qui a lieu la nuit, alors que c'est interdit la nuit. Et donc, de travail au noir, travail de nuit, on est passé à travail interdit, travail illégal, travail ignoré...
Non déclaré
à l'État. Et alors, une des conséquences de ça, c'est que Black va se mettre à apparaître, non pas dans le travail, mais dans le marché.
Le marché noir, le black market.
Le black market.
Quel lien avec l'expression de travailler au noir?
Alors, le lien est un lien qui est assez étrange. C'est-à-dire que travailler au noir, ça disparaît progressivement. C'est-à-dire que l'Église continue à interdire un certain nombre de jours et de moments où on doit travailler. Je rappelle, il y a une fable célèbre de La Fontaine où il y a un savetier financier qui sont en dialogue. Et le financier demande au savetier pourquoi il est aussi heureux. Et il dit, parce que j'ai un bon travail. La seule chose qui m'ennuie, c'est que monsieur le curé m'empêche de travailler de plus en plus souvent. Donc monsieur le curé met de plus en plus de jours et donc de nuit au calendrier où on ne peut pas travailler. Et puis cette expression disparaît pratiquement au 19e siècle. Je ne sais pas si les gens étaient plus honnêtes ou si on considère que de toute façon on travaille de jour, de nuit, on travaille en permanence. Toujours est-il qu'en Allemagne, au moment de l'occupation de la Ruhr par les troupes françaises, un certain nombre d'activités essaient d'échapper au contrôle des Français. Et dans les échanges qu'il y a entre les Français et les Allemands, commence à apparaître l'expression de marché noir inspiré. Et là, ça ne va pas être un marché de nuit, c'est un marché noir. Les Allemands vont traduire ça directement sous la forme de marché noir, Schwarz en allemand, qui va être la répercussion de l'expression travail au noir, mais le noir étant pris non plus comme la nuit, mais comme la couleur par les Allemands qui l'utilisent. Et alors, dans l'Europe entière, à partir de 1940, les Allemands occupent beaucoup de pays, et dans beaucoup de pays, ils se mettent à prendre des mesures contre les populations qui se livrent au marché noir. C'est-à-dire, on est en économie de guerre, pour échapper à l'occupant, pour essayer d'échapper aux réquisitions que mettent en place les Allemands, qui sont les occupants de beaucoup de pays.
Pour échapper à, mais accéder à aussi.
Et accéder à, se met en place tout un système, qui est un système de ce que les Allemands qualifient de marché noir, et que les Anglais se mettent à appeler black market. Et donc, la nuit du travail devient le noir du marché.
Du travail au marché, il n'y a qu'un pas. Bon, la transition est facile. Vous avez vu que chez Samsung, on va travailler 6 jours par semaine. pour montrer l'intensité de la crise que connaît cette société, bon, bah, finalement, on revient à ce qu'on faisait à l'époque de Constantin, on travaille 6 jours.
Alors, on travaille 6 jours, sauf qu'à l'époque de Constantin, on considérait qu'il fallait supprimer un jour de travail, le dimanche, parce qu'il y avait trop de monde à occuper. Là, les Coréens sont plutôt en train d'inverser la tendance, d'inverser la vapeur, c'est-à-dire de considérer qu'à force d'avoir supprimé des jours, à force d'avoir eu Monsieur le Curé, comme le disait le savetier de la place de la Fable de la Fontaine, à force d'avoir mis tout un tas de jours de congé, on finit par ne plus avoir assez de travail. Alors à l'époque de la Fontaine, à l'époque du savetier, on travaillait 1660 heures par an. Et aujourd'hui, nous travaillons 1660 heures par an aussi. Et sauf que sous Louis-Philippe, donc entre les deux, au milieu, sous la monarchie de Juillet, on travaillait un peu plus de 3000 heures par an.
Deux fois.
Et donc, on a considérablement divisé la quantité de travail grâce à l'efficacité de l'appareil productif. Et là, maintenant, effectivement, c'est la grande question du moment. Le monde est de moins en moins productif. Les pays développés sont de moins en moins productifs. Et donc, si on veut maintenir la production, non seulement la productivité n'augmente pas, mais elle commence même à reculer. Et donc, si on veut maintenir la production, il va falloir travailler davantage. Et donc, si Constantin revenait, il dirait, finalement, le dimanche, vous allez à la messe le matin, mais l'après-midi, vous êtes libre et vous allez pouvoir vous remettre au travail.
Voilà, ces questions autour du travail le dimanche, travailler au noir, le travail déclaré, ils font partie de la vie économique. Merci Jean-Marc. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eût pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire.
Absolument. Le financier, dans la fable, c'est la victime, c'est celui qui souffre. J'espère que nos auditeurs ne sont pas dans ceux qui souffrent.
Si, comme Eric, qui nous a écrit et qui nous a suggéré cette expression « travailler au noir » sur l'adresse directe @bfmbusiness.fr, vous aussi, vous avez une expression financière ou économique sur laquelle vous voulez que Jean-Marc travaille et puisse dérouler sa pensée et son immense culture, vous nous écrivez. Vous pouvez aussi m'écrire sur LinkedIn en message privé. Cette séquence va être à retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble des définitions de Jean-Marc sur le site et l'application BFM Business. La semaine dernière, nous parlions de l'argent qui n'a pas d'odeur.
Qui n'a pas d'odeur, et c'était déjà un empereur romain qui nous avait mobilisés.
De Vespasien à Constantin Ier, il n'y a qu'une chronique d'écart. Merci
exactement.
Beaucoup, Jean-Marc Daniel, notre économiste sur BFM Business. Vous restez avec nous, on va marquer une petite pub. Après, Stéphanie Collot va vous donner les dernières actualités. Nous allons passer une tête du côté d'Euronext pour prendre le pouls de notre CAC 40. Puis après, on parlera immobilier, avec un regain d'activité sur les visites d'appartements. Oui, 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 vous m'avez bien entendu. On va aussi parler de la baisse des biens alloués à l'approche des Jeux Olympiques, des chiffres de l'équipe Beanstalk que nous allons décortiquer avec Marie-Cœur de Roy et Alexandre Fitoussi. A tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours, à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi et puis à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, nous allons parler immobilier. On va parler de la baisse du nombre de biens à louer à l'approche des Jeux Olympiques. L'équipe Beanstalk vient avec des chiffres tout frais que nous allons analyser avec Marie-Cœur de Roy et Alexandre Fitoussi, son fondateur. Notre question-réponse du jour sera sur la gestion passive versus la gestion active. Nous allons parler des États-Unis où cette gestion passive, elle s'appelle Lazy Investing. Quels sont les principes de cette méthode d'investissement en bourse appliquée au contexte français? Vous le savez, avec le succès des ETF de chez nous, c'est un sujet qui vous concerne. Christian Fontaine de l'équipe du Revenu répondra à toutes vos questions d'ici 25 minutes. Et puis aujourd'hui, on investira différemment dans le design. Comment on débute une collection de design? Qu'est-ce que ça veut dire design? Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'évolution du marché et quelles sont les tendances à surveiller pour les mois et les années à venir? L'équipe de Christie's Europe sera avec nous. Avec nous, il y a vous. chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes nombreux à nous écouter en direct, bien sûr, mais aussi de manière délinéarisée, comme on dit aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à l'émission, à nous souffler peut-être des idées de sujets qui vous concernent, notamment dans cette période de déclaration fiscale, si vous avez des cas particuliers ou des questions. N'hésitez pas, notre équipe est mobilisée pour vous accompagner dans cette période et puis pour tous les autres sujets. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr. Mais aussi sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire en message privé, je vous dis, je suis connectée. C'est le moment de faire le point sur la séance en cours côté CAC 40 avec Antoine que nous rejoignons tout de suite. Cher Antoine, on est toujours dans le vert, on peut dire que le CAC est toujours bien orienté là à 11h06.
Oui, même si le rebond manque de consistance, hein, mais un petit peu comme hier, vous parliez du jour de la marmotte, bah, il est un peu en train de nous refaire la même séance qu'hier, hein, plus 0,35% là en ce moment pour le CAC 40. On est à 8068 points, donc tout va bien, mais c'est vrai qu'on y va à petits pas. À noter une bien meilleure performance du compartiment technologique avec un Euronext Tech Leaders qui est toujours en belle avance, hein, plus 1,29% dans le siège direct du Nasdaq qui s'est bien redressé hier. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions autour des perspectives de la tech. Hein, on en reparlera dans quelques secondes. Plus 1,11% en clôture hier pour le Nasdaq. Du côté des autres places européennes, on a du plus 0,57% pour le DAX à Francfort et plus 0,68% pour l'Eurostock 50, un rebond qui manque de consistance. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les chiffres des PMI ce matin, des indices des directeurs d'achat, qui étaient quand même très attendus. Et ils sont quand même très très bons. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire des taux qui se tendent. Et évidemment, ça ralentit un petit peu l'appréciation des actions. À noter que c'est Publicis qui signe maintenant la plus forte hausse du CAC 40. Il y a pas mal de variétés. Ça bouge pas mal, hein. En tête des progressions, plus 2,6% pour Publicis, on est à 104,60€, à noter Accor, plus 1,88€ à 40,60€, Eurofin Scientifique, plus 1,69€ à 61,30€, et puis à noter quelques très belles performances sur le SBF 120, on a Orpea qui signe la plus forte hausse à plus 5,27€, 12,98€, Interparfum qui est l'objet d'une bonne recommandation de Berenberg qui gagne 3,15% à 50,80€, à noter Legrand aussi sur le CAC 40 qui gagne 1,2% à 96,12€. Là, c'est Goldman Sachs qui a relevé sa recommandation sur le titre à achat. À la baisse, on retrouve pas mal de titres liés aux matières premières industrielles. Il y a eu de fortes baisses de cours sur le marché chinois ce matin. ArcelorMittal perd 1,12% à 23,84€. On a Eramet qui recule d'1,13% à 74,50€. Valourec aussi, moins 1,29€ à 16,89€. Et puis, le secteur de la chimie, Arkema, moins 1,7% à 96,15€. Et Solvay, moins 3,93€ à 30,33€. Le CAC 40 plus 0,33, 8066 points et l'euro 1,0664.
Nous sommes dans une semaine de publication. Aux États-Unis, on attend une grosse fournée de résultats de grosses entreprises, notamment dans la tech. C'est l'objet de votre histoire.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
On va parler de la tech américaine qui pourrait un petit peu donner le la des performances boursières à venir. Mais avant, je voudrais noter un anniversaire. C'est l'anniversaire de la mise en ligne de la première vidéo de YouTube, vous le savez ? C'est nos confrères de Zone Bourse qui ont relevé cet anniversaire, que je savais.
C'était un truc dans un zoo, c'est ça ?
Oui, devant des éléphants, si je ne dis pas de bêtises. C'est la vidéo d'un des fondateurs devant des éléphants. Exact. Voilà. YouTube a, on a dit quoi, 20 ans ? 19 ans.
Bref,
19e anniversaire. Alors on parle de tech parce que ça va publier côté Alphabet notamment. Racontez-nous un petit peu ce qu'on peut anticiper.
Alors, il vous a pas échappé qu'on a quand même une correction majeure hein, sur la tech ces deux dernières semaines hein, du côté des grosses capitalisations américaines. D'ailleurs, si on regarde la scorecard du Nasdaq, sur le mois écoulé, hein, moins 5,7% et d'ailleurs moins 2,7% sur la seule semaine écoulée. Ce qui prouve bien que la machine est un petit peu cassée. Alors, c'est vrai qu'il y a deux sources de tension. Premièrement, l'obligataire. Ça, on l'a vu. On a une Fed qui semble maintenant écarter une éventuelle baisse des taux et ça pourrait être sur l'ensemble de la fin de l'année. Et ça, c'est pas très très bon pour les valeurs de croissance, au contraire. Tout cela est un petit peu ankylosé par aussi la prime de risque géopolitique qui fait que les taux restent élevés. Hein. Donc, on a vraiment des capacités limitées hein, sur les valeurs techno. Et quand on a des titres qui ont du mal à progresser comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à se poser des questions. Hein. Comme dirait le célèbre écrivain, on se demande un petit peu qui sale la mer. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on est peut-être en train de se demander si on n'est pas en train de crever la fameuse bulle intelligence artificielle dont on pressent l'existence sans pouvoir véritablement la quantifier. Alors le meilleur cas d'espèce là-dessus, c'est quand même Nvidia. Nvidia qui a subi un repli particulièrement violent. Hein. Ce dernier mois de bourse, ça a quand même été sans gain, moins 14% sur un mois, moins 9% sur la semaine écoulée. Ouais. Et avec là aussi la question, le potentiel d'Nvidia est-il finalement épuisé ou pas ? Alors la question, on y répond assez vite. Les résultats d'Nvidia, ils seront publiés à la toute fin du mois et on en attend quand même d'excellentes choses. Maintenant, il y a quelques signes qui montrent que la machine est peut-être un petit peu cassée fondamentalement du côté des grands titres technologiques. Fondamentalement, je dis bien, regardez Tesla, par exemple. Tesla qui subit vraiment une déroute boursière, qui est sur un plus bas d'un an et qui vient encore d'annoncer des baisses de prix sur la plupart de ses modèles, un petit peu partout, en Chine, en Allemagne, etc. Regardez Apple. Apple qui, au premier trimestre, subit une baisse de 20% de ses ventes d'iPhone en Chine. Alors, à chaque fois que Apple subit un contre-coup comme ça, on dit « Bah oui, mais c'est la Chine, ils vont s'en remettre. Mais oui, mais c'est l'iPhone, tout le monde veut des iPhones. » Oui, bon, là, ça prouve quand même, la progression des titres ces dernières semaines prouve bien qu'il y a peut-être quelque chose qui, sans être cassé, est un petit peu enrayé. Et au vu des niveaux de valorisation extraordinaires qu'atteignent les titres de la Big Tech et particulièrement les Magnificent Seven, comme on les appelle, il y a des questions à se poser. Alors c'est vrai qu'à court terme, le Nasdaq est au rebond et on sent qu'on aura une belle séance sans doute à Wall Street. Mais voilà, pour les semaines à venir, il va surtout falloir que ces groupes délivrent en matière de résultats et de perspectives. Et évidemment, avec tout ce qu'on attend cette semaine, les Microsoft, les Google, les Amazon, on va avoir du grain à moudre.
Comme on le disait hier avec notre confrère Thomas Veillé d'Investir.ch, manquerait plus que l'IA nous lâche.
C'est ça, un petit peu ça. Manque plus que le moteur se mette à brouter, c'est sûr.
Bon, allez, à suivre ces résultats, évidemment, dans Tout pour Investir et aussi chez Guillaume Sommerer et Julie Cohen, BFM Bourse, tous les jours à 15h30 sur notre antenne. Nous sommes mobilisés pour couvrir cette semaine, cette séquence de publication de résultats. Antoine, à plus tard, c'est l'heure de parler immobilier dans Tout pour Investir. À tout de suite.
Tout pour Investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO, Marie Cœur de Roy est parmi nous. Marie a failli arriver en retard parce qu'elle a du courrier, figurez-vous, du courrier d'auditeur papier. Vous pouvez aussi nous joindre par papier, merci beaucoup.
Et je lirai ce courrier à l'antenne vendredi, c'est une promesse, parce que je trouve que le sujet est particulièrement intéressant sur le logement social et ces classes moyennes qui sont locataires aujourd'hui du parc social et qui sont à peu près menacées d'être expulsées. Donc on lira vendredi à l'antenne.
Le logement social, au programme de notre séquence XXL Immobilier. Vous pouvez donc nous joindre par courrier, vous le savez. Notre adresse, c'est 2 rue Alain,
rue du Général de Boissieu,
à Paris dans le 15e. Et vous pouvez aussi nous joindre de manière digital. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn, je suis connectée, vous pouvez m'écrire aussi par ce biais. Nous avons un gros programme et nous avons surtout des chiffres. Nous allons chiffrer et déchiffrer le marché immobilier avec vous, Alexandre Fitoussi, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes le président de Beanstock. Avec vous, nous zoomons sur un chiffre clé pour démarrer, pour prendre le pouls. Dites-nous un chiffre que vous retenez pour illustrer la tension.
Alors ce chiffre, c'est 1200. 1200, c'est pas
le prix 60. Du mètre carré à Paris.
Non, c'est pas le prix du mètre carré à Paris. Je suis sûr que je peux trouver des villes où c'est le prix du mètre carré. non, 1200.
Saint-Brieuc,
pas Limoges. C'est le nombre de candidatures qu'on a reçues pour un 18 mètres carrés à 500 euros à Lille en deux semaines.
1200
candidatures
en deux semaines.
500 euros, 18 mètres carrés, 1200 candidatures au mois d'avril 2024. Donc c'est un chiffre tout frais que j'ai observé dernièrement. Ça fait suite d'ailleurs à un fameux 11 mètres carrés qu'on a loué à Paris à 610 euros, pour lequel on a reçu 800 candidatures en une semaine. Des chiffres qui donnent le tournis. Et des chiffres qui s'expliquent également, hein, puisqu'il y a des explications. On parle souvent de l'effet JO. Donc, il devrait concerner principalement Paris. Là, c'est Lille.
Bon, après, il y a d'autres villes. Typiquement, Lille accueille des épreuves des Jeux Olympiques, hein, quand même.
Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Mais la tendance s'inscrit dans un phénomène qu'on constate depuis de nombreuses années maintenant, et en particulier depuis deux ans. Puisque qu'est-ce qui se passe depuis deux ans? les taux ont augmenté, vous l'avez probablement remarqué. Mm-hmm. Des taux qui augmentent, ça veut dire que l'achat du studio pour vos enfants quand ils vont faire leurs études dans une ville, ça devient beaucoup plus compliqué à envisager. Et les prix, malheureusement, n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux. Les prix n'ont pas baissé, et c'est loin de là. On peut même dire qu'ils ont continué d'augmenter. Il y a des villes comme Lille ou Marseille où les prix d'achat ont continué d'augmenter. Et donc, on se retrouve sous un nombre incalculable de candidatures, une pénurie de biens, je pense qu'on peut le dire, ça y est, on est sur la pénurie, 1200 pour un 18 mètres carrés, c'est une pénurie. Donc, évidemment, ça invite à l'investissement pour l'investisseur quand il entend ça, mais la bonne nouvelle également, c'est que la qualité des candidatures est au beau fixe et que les loyers ont augmenté. Donc, on a, pour un investisseur aujourd'hui, une équation où le prix du mètre carré, il a plutôt tendance à stagner. Les loyers en face augmentent, donc le rendement locatif a augmenté, ce qui vient compenser la hausse des taux. La bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on trouve son locataire aujourd'hui dans des durées records. Hein, pour trouver un locataire à Lille, c'est plus du tout ce qu'on imaginait.
C'est combien de temps, tiens, pour trouver un locataire à Lille?
Pour Lille, donc moi je vais me concentrer sur le studio pour donner cette information. Pour le studio, on est sous moins d'un mois, quoi qu'il arrive, donc 100% des cas, c'est moins d'un mois. On trouve parfois des locataires en une journée, mais on est sur une moyenne qui est entre 15 et 25 jours.
Alexandre, en même temps, 1200 candidatures, il vous faut globalement un mois pour les éplucher.
Et c'est ça le problème. Et d'ailleurs, on commence à avoir des startups qui se développent pour aider à éplucher les dossiers. C'est pas une blague. Hein, et elle marche
bien. Tout problème, une solution. Hein,
exactement.
Les entrepreneurs, ils
sont là pour ça. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? On l'espère pas, très franchement.
Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Là, on voit l'angle d'attaque sous le point de vue de l'investisseur, où effectivement, on se dit un marché tendu, c'est forcément, entre guillemets, aussi des opportunités pour le propriétaire bailleur. Mais la réalité quand même des faits, c'est qu'on a vu là à la rentrée de septembre dernier des agents immobiliers, des agences immobilières avec des devantures avec écrit ne venez pas, il n'y a pas d'appartement à louer, quoi. On n'a aucune offre à la location. Ouais. Donc là, typiquement, là on est en avril 2024, vous êtes en train de nous dire que les choses ne se sont pas détendues depuis la rentrée.
Loin de là, c'est même là on attend une rentrée catastrophique en septembre. Donc là, je me place du point de vue locataire. Je pense qu'il va y avoir un grand nombre d'étudiants qui vont renoncer à leurs études faute de trouver un appartement. Il va y avoir un grand nombre de gens qui vont devoir accepter de payer des loyers qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer.
Et donc, potentiellement ne pas les payer ou pas? Est-ce que selon vous, ça peut être aussi...
C'est un très bon point. Alors, pour l'instant, on ne voit absolument aucun rebond des impayés sur les loyers. Mais là encore, donc il y a beaucoup de solutions qui existent de nos jours. Aujourd'hui, chez Beanstalk, typiquement, on arrive à mettre en place des garanties de loyers impayés qui sont payées par le locataire lui-même, ce qui est positif pour les deux. Ça permet au locataire de donner de la garantie à son dossier et au propriétaire de ne pas avoir à assumer ce frais en plus. Donc, il y a plein de solutions qui existent là-dessus. On ne voit pour l'instant pas d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude sur le sujet des impayés. Par contre, on a de l'inquiétude sur qu'est-ce qui va se passer en 2025. On le rappelle, on parle des DPEG tout le temps qui vont sortir de la location. On n'y est pas encore là. Donc, en janvier prochain, on a des milliers de biens qui vont encore sortir. Heureusement qu'au mois de juillet, un grand nombre de passoires thermiques vont venir, vont voir leur DPE s'améliorer par magie grâce à la réforme.
On en parlera de ça aussi. Je fais une petite aparté pour nos auditeurs et téléspectateurs. Ouais. La mise à jour grâce aux petites surfaces et aux nouveaux coefficients qui devaient permettre, je dis devaient, permettre à beaucoup de petites surfaces de franchir peut-être une note, voire deux. Moi, j'ai testé sur plusieurs biens. Il n'y a rien qui change. Donc, on posera la question. On va refaire une émission quand même sur le DPE parce que vous êtes nombreux à m'alerter sur le sujet. Certains, ça change et pour certains, ça change pas.
Alors, quand bien même ça ne changerait pas, je fais juste une toute petite parenthèse. Quand bien même ça ne changerait pas immédiatement, ça rendrait beaucoup plus simple l'accès à la bonne note. Même si vous ne voyez pas votre note changer tout de suite, le parcours vers la bonne note, il a quand même changé pour tout le monde. Ça,
mais
c'est
bref,
évident.
Pour revenir sur notre idée de tension locative, effectivement, c'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur une tension extrême, mais elle n'est pas maximale parce qu'elle pourrait être pire à partir du 1er janvier prochain. Là, typiquement... qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'il y a des gens qui, quand ils ont chopé le logement à louer, ils ne bougent plus, ils restent dedans.
Et voilà, ça c'est l'autre chiffre terrible, c'est qu'on voit que les locataires ne changent plus d'appartement. Donc la rotation du parc locatif est au point mort. On a des locataires qui restent beaucoup plus longtemps que par le passé. On voit des villes dans lesquelles on était habitué à ce que le turnover moyen, le turnover c'est le rythme auquel les locataires changent d'appartement. On était habitué à des turnovers d'environ 5-6 mois sur des profits très étudiants. Aujourd'hui, il est quasiment impossible qu'un locataire laisse son appartement en dessous d'un an. Donc les appartements ne se libèrent jamais, ne reviennent jamais à location, plus l'effet JO, plus l'effet taux, on est dans le cocktail parfait pour accueillir notre DPEG en 2025.
Mais je ne comprends pas pourquoi c'est forcément une mauvaise nouvelle de ne pas avoir de turnover dans son locataire. C'est moins de contraintes.
Pour le propriétaire, c'est génial. Le problème, c'est que des locataires gardent leur appartement même quand ils n'en ont pas besoin. Donc, l'exemple classique, c'est le locataire qui autrefois quittait son appartement à la fin de ses études pour laisser passer l'été et en relouer un au mois de septembre. Aujourd'hui, il va garder son appartement. Et donc, ça fait encore des logements qui ne sont pas remis. Donc, il y a des nouveaux arrivants qui ne trouvent pas appartement. C'est là on parle aussi. Évidemment, en tant que Beanstalk, on se positionne beaucoup du point de vue investisseur. Et là, on peut le dire, la tendance elle est très positive pour eux. Mais du côté locataire, il faut reconnaître que c'est devenu la croix et la bannière. On a des gens qui sont prêts à tout. D'ailleurs, on est heureusement. Alors là, encore une fois, on va rentrer dans les logiques un peu politiques, mais on voit. En ce moment même, tous les atouts de certaines contraintes législatives sur les loyers. Typiquement, l'encadrement des loyers, donc pas le plafonnement, l'encadrement, celui qui vous interdit d'augmenter le loyer entre deux locataires, bah là, il joue son rôle, parce que je peux vous assurer qu'un bien qui se loue 500 aujourd'hui, vous le mettez à 800, il se loue immédiatement demain. C'est plutôt bien que ce soit encadré de ce point de vue-là, parce qu'on aurait...
Mais vous voyez, du coup, effectivement, parce qu'on parlait effectivement du point de vue du propriétaire investisseur, du fait que les loyers augmentent, justement, alors il y a cet encadrement à la relocation, il y a aussi l'encadrement des loyers à Paris et dans d'autres villes. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré tout, ça limite les dégâts, compte tenu de la tension locative, de ce qu'aurait pu être finalement le niveau des loyers, et du coup, du point de vue du propriétaire bailleur, il s'en sort comment dans tout ça?
Est-ce que votre studio à Lille, il serait vraiment loué 500 euros s'il n'y avait pas un peu d'encadrement? Il serait loué 1500 euros, il partirait aussi.
Alors, mais là, pour le coup, c'est le gros reproche qu'on fera au gouvernement, qui a réfléchi à la question du plafonnement des loyers, probablement, qu'ils ont accordé un certain nombre de neurones. Mais là, on a un problème, c'est que il y a autant ce que vous venez de décrire que le fait que ces plafonnements de loyers ont découragé l'investissement locatif. Donc, on ne sait pas, en fait, qui a eu le plus d'impact que l'autre. La réalité, c'est que les deux se justifient. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que s'il n'y avait pas l'encadrement des loyers, ou le plafonnement des loyers plutôt, on aurait probablement beaucoup plus de studios à location, et il y aurait probablement moins d'appétit pour de la location courte durée, et on aurait beaucoup moins d'effets pervers sur le marché.
Oui, mais on aurait des loyers défiant tout... Enfin, aussi, au contraire.
Pourquoi pas? Et bien, justement, c'est l'offre et la demande. On peut se dire qu'avec plus d'offres, on aurait une demande qui serait un peu plus équilibrée.
Mais
c'est une vraie question.
Les taux d'intérêt auraient quand même augmenté et notre capacité au primo-accédant d'accéder à la propriété et donc de sortir du parc.
En fait, mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que le phénomène de pénurie locative, on l'avait déjà en 2019 avec des taux à 0,8. Et déjà à l'époque, on en parlait toute la journée et on était choqués de voir le nombre de candidatures.
Mais du coup, ce serait pire, c'est ça que je veux dire, Alexandre, c'est que ce serait pire.
Je pense que fondamentalement, le problème, ce n'est pas les taux, c'est la pénurie d'offres. Et donc, pour régler la pénurie d'offres, on a un problème en France, on ne sait pas construire. On ne peut plus construire, ce qui vient aussi qui est à l'origine du fait qu'on a des villes qui sont magnifiques.
Oui, mais vous avez des villes qui ne sont pas extensibles à merci, on va
exactement
pas se mentir.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est d'ailleurs tout le travail du Grand Paris, par exemple. Pourquoi on a élargi le réseau de transport? C'est parce qu'il va falloir que Paris grandisse un petit peu. Si on veut accueillir toute l'effervescence, on le sait, il y a plein de tendances qui font que le nombre de logements alloués aujourd'hui est en pénurie. On a besoin de plus de logements. Donc,
je loue combien là à Paris en ce moment?
Pardon ?
Je loue combien en ce moment, du coup ?
Alors, si ta question est combien tu as le droit de louer, c'est très différent de combien tu loues.
Chez Beanstalk, là...
Oui, mais Beanstalk, nous, on est une agence, donc on va faire respecter l'encadrement des loyers à la lettre. Mais là, souvent, ce qu'on dit aux clients, c'est voilà le loyer légal, voilà le loyer de marché. Et là, on commence à avoir des écarts qui sont quasiment de 400-500 euros.
Ah ouais.
Je prends l'exemple typique, c'est le 11 mètres carrés. D'ailleurs, plus une surface va être petite, plus vous pouvez la louer cher au mètre carré. Un 11 mètres carrés, en théorie, ça se loue hors charge, 450 euros maximum.
Alors, pardon, on n'a pas que des auditeurs parisiens. En fait, 11 mètres carrés, ça n'est pas un placard, ce sont des endroits dans lesquels on a un minimum pour pouvoir vivre. Expliquez-nous quand même, parce quand même en train de parler d'appartements de 11 mètres carrés.
Alors, il faut savoir que donc, la loi, c'est minimum 9 mètres carrés en France. Et à Paris, c'est encore plus rigoureux que ça, puisque à Paris, ils exigent minimum 9 mètres carrés dans au moins une des pièces. D'accord ? Donc, on a...
Sinon, c'est
indécent. Cette question.
Mais ça, c'est le produit phare des investisseurs à Paris. Hein.
Malheureusement,
le studio.
Y a aussi une question de budget.
Évidemment, mais tous ceux qui investissent à Paris et dans les grandes villes, c'est la chambre de bonne ou le deux pièces.
Mais finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle que la chambre de bonne ait changé de rôle, ait changé de fonction, qu'elle soit plus juste un service au service des plus riches qui auraient accès à une chambre de bonne comme cave. Aujourd'hui, c'est mis à disposition de locataires. Et si c'est bien fait, une chambre de bonne ou 11 mètres carrés, ça peut être magnifique. Je vous le dis. sûr. Et ils sont, et d'ailleurs, on l'a dit, hein, on a eu 800 candidatures pour un 11 mètres carrés à 610 euros. Donc, on a une très forte tension locative. Bah, ce 11 mètres carrés, qui se loue en théorie 450 euros maximum hors charge, plus les charges évidemment, s'il n'y avait pas l'encadrement des loyers, il se loue 850, 900 euros. Sans problème. Donc, l'encadrement des loyers, il a des vertus, mais on pourrait se poser la question inverse. Est-ce que si on avait un marché dérégulé dans lequel l'offre et la demande travaillaient main dans la main, est-ce qu'on n'aurait pas plus d'offres? Est-ce que finalement aujourd'hui le sujet c'est pas plus la pénurie que le prix? Puisqu'on a des gens qui ne peuvent juste pas se loger. Et peut-être que même des gens qui auraient le budget pour se loger ne trouvent pas d'appartement. D'ailleurs, pour information, c'est même mon cas à titre personnel.
Là, il y a pour vous dire, mais ça semble. Il est venu à l'antenne pour chercher un logement.
Voilà, donc si vous avez un 3 pièces, bon, non mais voilà, donc.
À beaucoup de couples, puisqu'on raconte des histoires particulières. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se séparent en ce moment, qui vivent à Paris et qui n'arrivent pas à se loger dans le cadre de séparation. Et c'est ce dé de divorce que Marie vous évoquait régulièrement, qui est une réalité économique.
Et c'est ce qui crée une demande supplémentaire, cette décohabitation. C'est ce qui crée une demande supplémentaire. Juste, on a fait Paris. Maintenant, toutes les autres grandes villes ont quasiment toutes un encadrement des loyers. Juste au-delà de l'encadrement des loyers, en fait, dire est-ce que effectivement, compte tenu de la réglementation, vous voyez que ça bifurque. On parlait des JO, il y a d'autres villes hautes que Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que chez vous, chez Beanstalk, vous avez plein de gens qui vous disent moi je vais sortir mon petit étudiant pour aller le louer sur les plateformes de location saisonnière qui vont bien. Et rappelons à nos auditeurs téléspectateurs, est-ce qu'ils ont le droit de le faire?
Alors, je vais tout de suite répondre à cette deuxième question. Pour les plus grandes villes, notamment Paris, c'est rigoureusement interdit. D'accord ? On n'a non seulement pas le droit de sortir son locataire pour cette raison, donc c'est illégal comme congé, mais en plus de ça, vous n'avez pas le droit de louer une résidence qui ne serait pas votre résidence principale. C'est simple. Et ça s'applique pour Paris et quasiment toutes les communes qui entourent Paris. Donc déjà, pour les JO, tous ceux qui l'ont fait, sachez que vous êtes dans l'illégalité. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres villes qui sont beaucoup plus libérées sur le sujet. Lille, c'est également interdit. Lyon a une réglementation très complexe. Marseille fait exception. Donc Marseille, c'est une ville qui va beaucoup souffrir, faut le dire. On va voir les loyers qui vont beaucoup, beaucoup augmenter. Déjà, ils ont quasiment augmenté de 10% sur les deux dernières années. Et je pense qu'on est au tout début d'un phénomène puisque ils n'ont pas encore réglementé Airbnb là-bas. Ouais. C'est encore très libéré, même si ça commence à se durcir. Il y a quand même une certaine liberté et le plafonnement des loyers n'y a pas été instauré. Donc nous, ce qu'on voit, c'est vraiment une distinction aujourd'hui entre deux types de villes. Les grandes villes dans lesquelles les prix au mètre carré baissent parce que les gens ne peuvent plus y acheter, mais qui restent de très loin les plus attractives, dans lesquelles la tension locative est maximale et dans lesquelles les locataires souffrent énormément. Et en face, on a un autre marché qui est les petites villes qui avaient eu le vent en poupe post-Covid et qui aujourd'hui commence à beaucoup souffrir d'un nouveau phénomène, c'est que la qualité des candidatures à la location a beaucoup baissé. Les gens finalement peuvent y acheter quand ils peuvent. Donc ceux qui peuvent acheter, je prends l'exemple de Perpignan qui est une ville dans laquelle on travaillait beaucoup à l'époque. Perpignan, c'est une ville où les prix à l'achat ont beaucoup augmenté, ils continuent d'augmenter puisque tous ceux qui peuvent acheter le font. Puisque c'est une ville qui est assez rentable. Donc plus une ville est rentable, plus ça veut dire que le loyer est élevé par rapport au prix d'achat. Donc vous avez intérêt à y acheter. C'est plutôt l'inverse dans Paris où vous avez plutôt intérêt à rester locataire.
Bien sûr.
Et donc, les gens qui ne peuvent pas acheter se retrouvent sur le marché de la location. Et nous, on a vu un phénomène très marrant dans plein de petites villes. Enfin, marrant, c'est non, pas du tout bien choisi comme mot. Voilà, notable, c'est que on a des villes dans lesquelles on a une augmentation du nombre de candidatures et pourtant une augmentation également du temps de mise en location et une baisse des loyers.
Exemple de ville où vous avez observé ça ?
Perpignan, Nîmes, Le Havre, Rouen.
Parce que vous dites que ce sont des profils de locataires qui n'intéressent pas les propriétaires bailleurs, en fait.
Alors qu'ils ne les intéressent pas avec de bonnes raisons. Les propriétaires bailleurs deviennent moins exigeants aussi dans ces villes. Imaginez, quand on vous demande de baisser un loyer en 2024, vous dites, mais je ne comprends pas, j'ai entendu Lorraine, elle m'a dit que, Marie, elle m'a dit que. Et en fait, non, il faut baisser le loyer dans certaines villes, malgré l'augmentation du nombre de candidatures. Donc le marché, il est compliqué en ce moment. Je pense que le gouvernement en est conscient, puisqu'il y a quand même beaucoup de discours sur le sujet. Mais quand on entend parler de remettre en question le régime fiscal de l'MNP, quand on entend parler du DPE, des plafonnements de loyers, etc., ça a une tendance à décourager. Et je suis pas sûr que ce soit le bon moment pour le faire.
Voilà.
illustration, s'il vous en fallait plus, de la tension locative qui concerne l'ensemble de notre territoire. Merci beaucoup Alexandre Fitussi, président de Beanstock. Merci à votre équipe pour ces chiffres que vous avez partagés avec nous. Merci cher Marie. Vous retournez à votre courrier. On se retrouve demain à la même heure pour parler immobilier, évidemment, avec des sourires, mais surtout avec beaucoup de sérieux, parce que ces sujets ils vous concernent en tant qu'investisseur ou en tant simplement que habitant, si je puis dire. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre plateforme et notre site web, notre application pardon, d'ici quelques secondes. À suivre, on va s'occuper de gestion active ou bien de gestion passive. Qu'est-ce que vous préférez? On en parle avec Christian Fontaine juste après la pub. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir en gestion passive ou peut-être en gestion active. Nous allons faire le point entre ces deux types de gestion avec vous, Christian Fontaine. Rebonjour, cher Christian.
Rebonjour.
Directeur délégué de la rédaction du Revenu avec nous tous les mardis en première partie d'émission, mais aussi à présent dans la deuxième partie où on répond à vos questions. On va faire un peu du basique, mais c'est important de revenir aux origines de certains concepts financiers, puisque on va parler de culture financière. On va s'opposer un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis. On va zoomer sur nos matières de faire ici en France. Alors rappelez-nous la différence ou les différences entre ce qu'on appelle la gestion active d'une part et la gestion passive de l'autre.
La gestion active part du principe que vous allez essayer de faire mieux que la moyenne du marché, c'est-à-dire en fait mieux que les indices qui reflètent donc alors l'évolution des valeurs sous-jacentes, souvent des grandes valeurs dans le cas du CAC 40 par exemple. La gestion passive, au contraire, vous partez du principe qu'il est très difficile de battre les marchés et donc vous allez mettre en œuvre une stratégie dont peu ou prou le seul objectif entre guillemets ça consiste à afficher à la fin de l'année une hausse ou une variation équivalente à celle des grands indices dont vous parlez sur votre antenne à longueur de journée. En sous-jacent, je dirais, de cette stratégie, en fait, qu'on souvent on oppose en réalité, mais c'est ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, elle se complète en fonction du type d'investisseur et en fonction du type de sous-jacent. En fait, il y a une étude annuelle qui fait référence en la matière, c'est l'étude SPIVA, Standard & Poor's Indices versus Active Funds. Et cette étude, elle montre quoi? Elle montre que si environ 20 à 25% des fonds d'investissement gérés de façon active chaque année réussissent à battre les indices, chaque année, ce ne sont jamais les mêmes. Et donc, en fait, sur longue période, notamment sur le marché américain, vous avez 98% des fonds gérés de façon active qui affichent des performances inférieures aux indices. Donc, ça, c'est un peu le principe de départ.
Justement, vous nous parlez des États-Unis. La gestion passive aux États-Unis, tout est dit, ça s'appelle le lazy investing, c'est-à-dire l'investissement paresseux.
Voilà, de façon un peu imagée, tout à fait.
Comment on applique ces concepts américains à notre pays, la France?
Alors, il y a trois idées très pratico-pratiques qui sous-tendent ce mode de gestion. La première idée, c'est qu'il faut investir régulièrement en bourse. Et il ne faut pas chercher à investir quand on pense que la bourse est basse ou à sortir du marché quand la bourse est haute. L'idée, c'est l'investissement en bourse. L'idée, c'est un peu comme l'abonnement en bourse. Chaque mois, vous investissez la même somme. Quand les marchés sont hauts, vous achetez peu de titres. Quand les marchés sont bas, vous en achetez davantage, qui permet de moyenner le prix de revient. En fait, ça évite le principal biais comportemental qui consiste à acheter quand la bourse est au sommet. Et c'est un peu l'action est l'un des rares produits où plus c'est cher, plus vous avez envie d'acheter. Et c'est comme ça que lorsqu'on regarde l'évolution donc en fait de la collecte des investissements des particuliers, ben souvent en fait ils suivent la hausse de la bourse et donc c'est pour ça que souvent ils sont perdants. Donc premier principe, on met en place un abonnement en bourse, on investit en bourse chaque mois la même somme, on n'essaye pas de faire ce qu'on appelle du trading.
Ouais. On ne s'improvise pas trader intraday.
Voilà, on ne s'improvise pas des traders, ce qui ne veut pas dire que les traders ne gagnent pas de l'argent. Ce qui veut dire, c'est que c'est leur job, c'est réservé à des spécialistes, donc à des particuliers avertis. Deuxième principe de base, vous investissez en fait dans le monde entier. Vous ne vous posez pas la question, est-ce qu'il faut investir en Europe, en Asie, aux États-Unis? Non, vous investissez dans des actions cotées à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe et à la fois en Asie, sur des indices le plus large possible, en partant du principe que c'est la meilleure stratégie pour profiter de la tendance haussière de la bourse sur le long terme. Et vous investissez via des produits que vous aimez beaucoup et que nous aussi au Revenu on aime beaucoup, les ETF. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, il y a un ETF, on en reparlera tout à l'heure, qui fait le buzz, donc là, qui est indexé sur l'indice MSCI Worldwide, donc 23 pays, 1500 valeurs de pays développés. Troisième principe de ce qu'on appelle aux États-Unis le lazy investing, on investit, on fait attention aux impôts, donc en Europe, en France, on investit dans des enveloppes à fiscalité privilégiée, PEA, PEE, donc assurance vie. Et dernier point, je sais que là-dessus vous partagez mon opinion et vous allez me chercher et me taquiner là-dessus, c'est bien sûr on optimise les frais. Pourquoi on optimise les frais? Parce que sur le long terme, c'est l'un des éléments clés de la performance. Les frais moyens, donc alors des fonds d'investissement en actions, ça tourne autour de 2%. Vous placez 100 000 euros pendant 25 ans à 6%, vous aurez 400 000 euros. Si vous les placez à 8% parce que vous payez 2% moins de frais, eh bien vous n'aurez plus 400 000 euros, mais 600 000 euros. Dit autrement, 2% de frais sur 25 ans, avec ce type de taux de rendement, c'est 200 000 euros. Donc vous voyez que ça pique.
Absolument, mais je suis votre disciple en la matière de frais, Christian. Vous savez que je vous cite quasiment au quotidien. Non, mais c'est très sérieux. Vous m'avez éclairé et vous m'avez changé finalement. On continue à parler très sérieusement de cette gestion passive versus la gestion active. Bon, vous allez nous dire que ça n'est quand même pas la méthode miracle, cette gestion passive, que quand même elle a quelques failles.
Alors, elle a quelques failles, oui, parce que en théorie financière, la théorie financière dit quoi? Que quand vous avez une somme à investir en bourse, il ne faut pas procrastiner, il faut l'investir tout de suite. Et c'est vrai que c'est la meilleure stratégie pour optimiser vos gains. La seule chose, c'est que votre objectif n'est peut-être pas forcément de gagner le plus, mais aussi de dormir tranquille. Si vous aviez investi au sommet de la bulle Internet en 2000-2001, vous avez mis plus de 10 ans avant de récupérer votre mise. À condition, et vous avez récupéré votre mise, à condition que vous n'ayez pas vendu entre-temps. Donc, je dirais que le lazy investing n'est peut-être pas la technique qui permet de gagner le plus, mais c'est la technique qui permet de gagner le plus tout en dormant tranquille. Donc ça, c'est quand même un point essentiel. Surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que gestion active et gestion passive ne s'opposent pas, en fait. Vous pouvez très très bien décider, par exemple, pour les small cap, les petites valeurs européennes, de confier votre argent à un professionnel, parce que les professionnels qui sont sur cette thématique des small cap souvent battent leur indice de référence. Il y a peu d'informations sur les small cap, les indices sont pas forcément représentatifs. Pour un gérant donc qui y passe ses journées, il va souvent réussir à afficher de meilleures performances que les indices. Pour les grandes capes européennes, vous pouvez très bien partir du principe qu'en écoutant votre antenne, en lisant donc la presse spécialisée, vous pouvez battre donc les indices et donc là aussi adopter plutôt une gestion active. Par contre, pour tout ce qui est l'international, l'exposition de votre portefeuille, notamment aux actions américaines, là, la gestion passive prend tout son sens. Le marché américain est un marché très particulier. C'est un marché où l'information circule bien. Ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsque vous êtes analyste ou gérant donc alors à New York donc alors, ou à Orlando donc ou à San Francisco, et bien, peu ou prou vous avez le même niveau d'information. C'est très difficile d'avoir plus d'informations sur Coca-Cola ou sur Nvidia que votre concurrent, le gestionnaire concurrent qui travaille dans une banque concurrente de la vôtre. Du coup, c'est très difficile de battre les indices. C'est pour ça que la gestion passive sur les marchés américains est particulièrement bien adapté.
Cette disponibilité de l'information, un point à souligner. Bon, on parlait de trackers, on parlait d'ETF qui sont par définition le symbole, je dirais, de la gestion passive. Est-ce que vous pouvez nous aider à bien choisir nos ETF? Si on respecte ce que vous nous avez dit, on met un petit peu tous les mois, on essaye d'avoir une vision aussi, un investissement aussi globalisé que possible, pardon pour l'anglicisme, et bien sûr avec les ETF, on est à peu près sûr qu'on ne paye pas trop de frais, mais comment on choisit ces ETF parmi l'offre pléthorique d'ETF?
Alors c'est vrai, bon, d'abord il faut simplifier la vie, donc on choisit un ETF coté à Paris, c'est beaucoup plus simple, et puis c'est vrai que un ETF s'achète comme une action et donc s'il est coté sur Euronext Paris, vous paierez moins de frais de courtage que s'il est coté à New York. Ensuite, on choisit un ETF qui est plutôt proposé par une grosse société de gestion, Amundi, BNP, donc alors BlackRock via leur gamme iShares. on choisit plutôt un ETF qui capitalise plus de 50 millions d'euros, sauf en phase de lancement. Alors pourquoi ? Parce que ça veut dire que les ETF sont des produits. Sont des produits peu ou prou comme les autres. Si un ETF pèse plus de 50 millions d'euros peu ou prou, ça veut dire qu'il marche, ça veut dire qu'il rencontre donc ses investisseurs, ça veut dire qu'il ne risque pas de disparaître. Vous savez, les ETF, il y en a qui disparaissent et qui apparaissent tous les jours. Bon. Donc il faut mieux se positionner sur un ETF qui marche, en tout cas si vous êtes dans une perspective d'investissement de long terme. Un ETF éligible au PEA, un ETF qui prélève très peu de frais, certains ETF qui répliquent par exemple les grands indices américains, le MSCI World ou par exemple le Standard & Poor's 500, peuvent prélever 0,03, 0,04, 0,07% de frais, donc moins de 0,1% de frais. Mmh. Voilà, c'est à peu près les indices. Après ça, on peut regarder dans les détails. C'est vrai que il faut regarder dans le temps la capacité de l'ETF à reproduire la performance de l'indice sous-jacent, par exemple. Et puis, selon votre profil d'investisseur, vous pouvez choisir un ETF qui va distribuer des revenus, parce que vous avez besoin de revenus complémentaires, ou qui va les capitaliser, c'est-à-dire les réinvestir, donc alors, pour profiter donc alors à fond de l'effet boule de neige et de la capitalisation des intérêts. Donc alors, la septième ou la huitième merveille du monde, selon Albert Einstein. Voilà, donc c'est quelques-uns des critères de sélection d'un bon ETF.
On parlait de culture américaine opposée à culture française. BlackRock, gérant, énorme gestionnaire d'argent, a lancé un produit pour le marché français, dont on a parlé sur cette antenne déjà, mais c'est intéressant d'avoir votre regard, Christian. Un ETF éligible au PEA qui couvre, voilà, qui est globalisé. Votre regard sur ce produit, qu'est-ce que ça dit à la fois du marché français, de l'intérêt du PEA et puis peut-être quelque part de la stratégie de BlackRock ?
Alors, c'est très intéressant de voir que c'est un géant mondial, le numéro un mondial de mémoire de la gestion d'actifs, un Américain qui décide de lancer un produit destiné, coté à Paris, destiné exclusivement à la clientèle de particuliers français. Donc déjà ça c'est un fait extraordinaire, ça n'arrive pas tous les jours. Ce qui montre quoi ? Ce qui montre que BlackRock croit au potentiel donc de la France, croit au potentiel du marché retail, donc des particuliers de la France, et croit à l'enveloppe fiscale du PEA. Ce qui montre aussi, c'est qu'il croit au sous-jacent. Donc, c'est ce fameux indice MSCI Worldwide, donc qui est un indice boursier qui reflète la performance des grandes bourses occidentales, hors pays émergents. Et c'est vrai que cet indice a affiché au cours des 10 dernières années des performances exceptionnelles, puisque le gain moyen annuel est largement supérieur à 10%. Bon. Donc, c'est l'indice, c'est le tracker, c'est l'ETF, donc alors, qui fait le plus le buzz sur les réseaux sociaux et a raison. Alors, l'intérêt de ce produit, il existait déjà des produits concurrents, notamment chez Amundi. L'intérêt de ce produit, d'abord, c'est qu'il a une valeur liquidative, une valeur de la part très faible, 5 euros. Donc, je dirais que vous pouvez y investir des sommes très, très modestes. Vous pouvez l'utiliser pour diversifier votre PEA facilement, l'internationaliser. Et puis, le jour où vous voudrez alléger votre ligne, ça sera très facile. Et puis, au niveau des frais, c'est vrai qu'il ne prélève que 0,25% de frais de gestion chaque année, contre 0,38 pour le produit concurrent, donc ce qui fait quand même si mes calculs sont bons, 35% de frais, donc il est 35% moins cher que le produit concurrent, donc ça c'est top. Alors attention, c'est quand même un produit, c'est un indice en dollars, donc ça vous expose quand même à un risque dollar. On parle d'actions bien sûr, donc il n'y a aucune garantie sur le capital, les marchés sont plutôt hauts en ce moment, donc c'est pas un produit miracle. Oui, c'est un bon produit de diversification, mais là aussi on y rentre progressivement.
Voilà, un petit peu de perspective sur la gestion passive à opposer ou à compléter avec la gestion active. Ce sera peut-être ça le mot de la fin avec vous, Christian. Merci beaucoup, Christian Fontaine, directeur délégué de la rédaction du Revenu. Le Revenu qu'on trouve en kiosque ce mois-ci, comme tous les mois, digital aussi d'ailleurs, pour réussir ses placements immobiliers. C'est ça, la promesse mensuelle.
Oui, c'est ça. C'est notre... on remet donc alors des prix aux meilleurs SCPI, SCI, OPCI, donc ces placements qui permettent à la fois... dirais, de cumuler les avantages des placements financiers, la liquidité, et puis donc le rendement de le côté, la sécurité de l'immobilier, avec bien sûr d'autres articles sur l'épargne salariale, sur investir dans une voiture de collection, sur débuter en bourse en limitant les risques, et puis aussi un petit zoom sur jusqu'à 60 000 euros d'impôts en moins en finançant une PME. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année d'ailleurs, il y a de nouveaux dispositifs pour investir dans le non-coté, investir en direct dans l'appareil productif tout en profitant de carottes fiscales particulièrement importantes. D'autres articles aussi, notamment pour savoir si vous faites des donations à vos enfants et vos petits-enfants, et si vous voulez passer devant le notaire, combien ça vous coûte exactement. On en a peu parlé, mais depuis le fin février, en fait, les tarifs des notaires ont été prorogés pour 2 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ils n'augmentent pas, et on fait le point sur les tarifs des notaires, notamment en matière de donation.
Voilà, Christian Fontaine et l'équipe du Revenu qu'on retrouve tous les mardis dans Tout pour Investir, et puis à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, en podcast et en replay sur notre site et l'application de BFM Business. Cette séquence est déjà à retrouver. Vous restez avec nous, on va finir l'émission en parlant d'investissement dans le design. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement, peut-être dans le design. Au-delà de l'investissement, on va parler de collection. Bonjour Flavien Gaillard.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département design chez Christie's. Avec nous, pour un exercice de définition, qu'est-ce que c'est que le design ?
Le design, c'est une question qui est compliquée. Avant tout, je pense que c'est la recherche de formes nouvelles adaptées à une fonction. Derrière chaque objet design se cachent des mouvements, des périodes. Ça peut être l'art déco, les années 70, la reconstruction, les recherches de nouveaux matériaux et aussi des artistes et des créateurs passionnés qui se sont investis sur des matériaux et des nouvelles idées révolutionnaires.
Le design est la fonction, l'usage, c'est-à-dire que ça doit être beau et pratique. Est-ce que c'est ça la révolution ?
Je dirais que c'est surtout la grande machine industrielle après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire qui a accéléré tout ça et où on a créé des produits et des pièces en plus grande quantité avec des processus révolutionnaires, l'arrivée de nouveaux matériaux comme le plastique qui a permis de développer, on va dire, toute la reconstruction et la période des Trente Glorieuses assez abondamment.
Comment vous êtes tombé dedans ?
Écoutez, je pense que la quête de l'objet est assez importante. On aime chasser des œuvres. Et c'est ce qu'on fait chez Christie's pour essayer de trouver les œuvres qui alimentent nos ventes. Et ensuite, je pense que derrière chaque objet, il y a une histoire, ce qui n'est pas forcément facile à imaginer, et peut-être moins facile qu'un tableau. Et pourtant, on peut découvrir toute une histoire derrière chaque objet.
Est-ce que vous pouvez nous citer quelques objets emblématiques ? Certains de nos auditeurs sont nos auditeurs, donc ils nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelques objets emblématiques ?
Écoutez, je pense que tout le monde connaît la chaise longue de Le Corbusier, qui est vraiment une icône du design. Vous avez aussi en design américain le fauteuil lounge de Charles Ray Eames, qui a été édité sur quasiment 70 à 80 ans aujourd'hui. On a aussi les miroirs de Lynn Vautrin en talocell, qui sont très très présents aujourd'hui dans de nombreuses collections. Ça fait partie des nouvelles icônes du design que l'on s'arrache un peu partout aux enchères ou dans les galeries.
Flavien, c'est votre première fois dans cette émission Tout pour investir. On est une émission d'investissement. Je vais donc vous poser des questions très matérielles. Est-ce que commencer à collectionner le design, c'est peut-être des collections abordable. À partir de quel budget on peut commencer à posséder, ou en tout cas à envisager de posséder un objet design ?
Alors le design, ça englobe aussi les céramiques, la verrerie, les luminaires. À partir de 50 euros, vous pouvez déjà trouver un objet design qui correspond à une époque, aux couleurs, aux formes qui sont emblématiques d'un courant artistique. Et ensuite, vous pouvez vous envoler jusqu'à plusieurs millions d'euros. Tout va dépendre un petit peu de votre budget, de votre approche aussi, et de vos envies de vous meubler.
Est-ce que vous pouvez me citer quelques artistes contemporains qui ont la cote ? Mais vraiment la cote.
Aujourd'hui, vous avez Claude et François-Xavier Lalanne qui sont les artistes les plus recherchés. On a battu un record du monde à 18 millions d'euros avec le Rhino Créter en octobre dernier.
Ceux qui nous suivent en image le voient défiler derrière.
Voilà, un objet assez exceptionnel avec une histoire derrière fantastique, puisque c'était une pièce unique qui c'était la première fois depuis son exposition en 1966 que l'œuvre ressortait sur le marché. En termes de prix, Jean Prouvé et Charlotte Perriand sont les deux icônes des années 50, sur lesquelles on a des prix vraiment exceptionnels. La Bibliothèque Mexique, qui meublait les chambres d'étudiants à l'université d'Antony. C'est une pièce qui se vend plus de 300 000 euros aujourd'hui, qui est vraiment iconique de cette femme artiste et qui est recherchée à l'international aujourd'hui.
On entend quelques noms féminins dans ce que vous nous décrivez, Flavien. Est-ce que les femmes ont une place importante dans le design comparée à d'autres catégories de l'art ?
Écoutez, je pense que les Charlotte Perriand, pour l'avoir citée, c'est la première femme designeuse à avoir eu une rétrospective à la Fondation Vuitton. Et elle n'a pas été présentée comme une designeuse, mais plutôt comme une artiste de son temps, avec des recherches écologiques, un travail sur la photographie et le design, qui lui permettent d'avoir une aura qui a traversé les âges, puisqu'elle a commencé à la fin des années 30. Et jusqu'à aujourd'hui, la maison Cassina continue à rééditer les modèles iconiques de cette femme qui inspire toujours autant d'étudiants en architecture, en design et de collectionneurs voulant posséder une part de cette histoire.
Il faut dire qu'elle avait beaucoup de cartes de visite. Architecte, designer, photographe, elle a été aussi commissaire d'exposition. Donc en fait, toute son histoire raconte aussi l'histoire du design du XXe.
Exactement. Après, elle a beaucoup voyagé. Elle a ramené du Japon, du Brésil, les coutumes et en fait le côté traditionnel du travail du bois et de différents matériaux qu'elle a réussi à inclure. Elle a créé des systèmes vraiment révolutionnaires comme sa bibliothèque à plots qui est vraiment un modèle de design et d'économie. Je pense que c'est vraiment une figure extrêmement importante aujourd'hui et qui est mise en rapport avec des grands tableaux d'art contemporain et d'art moderne.
Voilà ce qu'on pouvait dire du design en quelques minutes avec vous, Flavien Gaillard. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous. On vous a expliqué peut-être pourquoi s'intéresser de plus près au design et comment on pouvait collectionner. On l'entend, la France est un bon endroit pour s'intéresser à cet art. Peut-être un chiffre ou un événement à venir dans cet écosystème que vous voulez partager avec nous, Flavien, pour finir.
Alors écoutez, on a notre vente de design le 23 mai. À Paris, où on va célébrer Charlotte Perriand, puisque c'est le 25e anniversaire de sa disparition, où on va présenter des pièces iconiques et une commande qu'elle a faite pour la maison Borro, un aménagement fait à Montmartre avec beaucoup de pièces uniques. On exposera aussi son travail photographique afin de mettre en relation son côté pluridisciplinaire et faire découvrir encore au public ses plus grandes réalisations.
Merci beaucoup Flavien Gaillard et l'équipe de Christie's. Cette séquence, comme l'ensemble de notre émission, est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques minutes sur le site et l'application BFM Business. C'est la fin de Tout pour Investir. Merci à toutes et à tous pour vos messages. Vous continuez à nous écrire. Demain, nous serons au rendez-vous dès 10h. On a prévu de parler déclaration de revenus. Et oui, nous serons en équipe avec notre consoeur des Échos, Marie-Christine Sonquin, pour vous éclairer sur tout ce qu'il faut savoir, les pièges à éviter. Et puis, on investira dans le sport aussi avec l'équipe de Montpensier. Investir dans le sport dans cette année olympique, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue très concret ? Réponse demain dans Tout pour Investir. Avant demain, eh bien, il y a le reste de l'après-midi et le reste de la journée sur BFM Business. Sandra Gandoin, aux manettes d'Avec vous, est arrivée parmi nous.
Bonjour Lorraine.
Quel est le programme de l'émission ?
Se faire aider quand on lance sa start-up ou quand elle ferme et pour rebondir derrière. On va parler de cela. J'aime mon job, mais je ne suis pas assez payée. Donner une prime aux salariés non grévistes, est-ce que c'est légal ? Et puis notre question du jour, est-ce que vous aussi, comme votre collègue d'Open Space, ça vous aimez travailler en musique ou pas ? Notre question du jour, vous réagissez, notre adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Ça et toutes les questions que vous avez à nous poser sur la vie en entreprise, la vie des patrons, des salariés, des indépendants, c'est dans un instant.
Nous sommes collègues d'Open Space, cher Amaury, vous nous avez rejoint, bonjour.
Bonjour Lorraine, bonjour.
Nous travaillons dans le CAM, pour votre information, avec Amaury, parce que vous avez beaucoup de choses à préparer. Vous êtes aux manettes de BFM Crypto dès 15h et puis aussi à 21h30 sur notre antenne. Quel est le programme de l'émission qui s'occupe de nous faire vivre le Web3 et les cryptos ?
Eh bien, peut-être que justement, grâce au Web3 et à la blockchain, on va bientôt pouvoir s'envoyer de l'argent via des messageries instantanées, notamment, en tout cas, celle de Telegram, qui a quand même 900 millions d'utilisateurs dans le monde. Et bientôt, on pourra s'envoyer le premier stablecoin au monde, donc l'USDT, via Telegram. Donc, en plus de l'information, on pourra s'échanger de la valeur bientôt.
Voilà, c'est le projet de Telegram avec les stablecoins. Merci beaucoup, Amaury. On vous retrouve tout à l'heure à 15h. 21h30. Et puis n'importe quelle heure en podcast pour couvrir cette actualité Bitcoin. Le Bitcoin qui se traite autour de 66 000 $ à l'heure où nous nous parlons. Très bonne écoute sur BFM Business et à demain.
Tout pour investir sur BFM Business.